I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 431 du podcast John Actual. Mathé, très heureux de vous retrouver pour le premier débrief de la saison 2021 de NFL. À mes côtés pour parler de tout ce qui s'est passé ces trois derniers jours, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Et on l'a dit, donc on l'a déjà dit, mais ça me fait toujours bizarre de le redire. Donc, comme il y a 10 ans, en septembre 2011, on est parti pour la 11e saison avec Raphaël. Lucas Vola est avec nous. Bonjour, Lucas.
Salut, messieurs. Quelle première semaine.
Quelle première semaine, en effet. Les Packers se giflaient, les Titans se piétinaient, les Bills secouaient. Il s'est passé plein de choses. Ça n'a manqué ni de beau match, ni de surprise. On ne perd pas de temps. On débriefe ça tout de suite.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et la première des surprises et la première des gifles de la saison, elle est pour les Packers, humiliés par les Saints. Je reprends les mots du coach, ce n'est pas moi qui dit qu'ils ont été humiliés, pardon, c'est Matt LaFleur qui le dit, humiliés par les Saints. Messieurs, avant de parler des Packers, parce qu'ils ont perdu, ils ont pris une grosse rousse, tout ça, parlons quand même des vainqueurs, honneur aux vainqueurs. Parce qu'il y a un homme qui a vécu un grand jour dans sa carrière, c'est Jameis Winston. 14 sur 20, 148 yards, 5 touchdowns, aucune interception. Pour reprendre les mots d'un célèbre commentateur français, alors peut-être, est-ce que c'est le tournant de la carrière de Jameis Winston, ou en tout cas, est-ce que cette saison, plus globalement, peut l'être? On en avait parlé pendant les previews, que ça pouvait être une saison intéressante pour lui. Il faut s'incliner sur le premier essai, en tout cas, qui est plutôt transformé, Raphaël.
Ouais, le premier essai est plutôt transformé. Faut quand même mettre beaucoup de crédit sur Sean Payton, forcément, d'avoir aussi bien préparé ce match, aussi bien préparé Jameis Winston à prendre la relève de Drew Brees, avec en plus un plan de jeu beaucoup moins risqué que ce que Winston faisait toutes ces années à Tampa Bay. On a vu beaucoup plus de petites passes, beaucoup plus de rythme aussi. Manifestement, Jameis Winston qui a aussi appris à ne plus lancer la balle sur les linebackers adverses. Enfin, donc vraiment, tout ça a été très, très bien préparé. Parce qu'en plus, il faut le reconnaître, hein, Jameis Winston, sur ce match, il n'a pas un groupe de cibles à faire rêver la Ligue. Je veux dire, quand il n'y a pas Michael Thomas, alors oui, il y a toujours l'excellent et le très polyvalent Alvin Kamara, mais sur ses cibles vraiment, et notamment sur les menaces extérieures, etc., il n'a quand même pas grand-chose. On ne lui donne pas grand-chose. Donc là, ça a été très, très propre. Et des bons choix, peu d'erreurs de lecture, pas d'erreurs de lecture même, j'ai envie de dire. Il y a une petite interception qui aurait pu être accordée sans un mouchoir un peu gentil des arbitres, mais globalement, par rapport à tout ce que Jameis Winston a montré jusque-là, on ne peut que se dire que si ça continue comme ça, bah, il risque d'être bien payé à la fin de la saison vu qu'il est sous contrat pour un an.
C'est vrai aussi. Il a été bon dans la poche, il n'a pas forcé, il n'a pas été gourmand. Sean Payton a été bon sur les choix, tu l'as dit. Il a même réussi une petite passe en profondeur. Pour l'instant, c'est le scénario parfait, Lucas.
Ah oui, pour l'instant, c'est parfait. Tu disais 14 sur 20, c'est pas sa note, hein. J'aurais mis un petit peu plus si on avait dû le noter, mais c'est vrai, j'ai envie de dire calmons-nous quand même. Calmons-nous, il envoie que 20 passes, alors oui, c'est un blowout, donc forcément, il est pas obligé de passer, on le sait qu'il a tendance parfois à forcer. Il y a cette petite interception, on le disait Raph, qui est retournée à cause d'un roughing the passer, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas un mouchoir. Elle aurait très bien pu être acceptée pour être une interception. Il est à moins de 100 yards, je crois, juste avant qu'il lance cette longue passe et ce dernier touchdown. C'est dire, voilà, c'est vraiment, Sean Payton l'a utilisé vraiment avec parcimonie. Il y avait Alvin Kamara. Moi, je suis convaincu par Winston sur ce match. J'attends de voir un petit peu plus. Je suis pas totalement emballé, je suis pas à fond sur Winston. S'il fait ça toute la saison, ça sera parfait. Ils ont la défense pour, on l'a vu. Ils ont le schéma offensif pour. Maintenant, il ne faut pas qu'il force, il ne faut pas qu'il redevienne Winston. Donc, sur un match, c'est bien, attendons de voir.
C'est sûr que pour l'instant, en effet, ça reste plus prudent. Tu l'as dit, il n'a pas eu à lancer énormément de ballons. Mais encore une fois, Raphaël, tu le disais, il n'y a pas des cibles exceptionnelles. Le meilleur receveur, c'est Deontay Harris. Derrière, il y a Joan Johnson, Adam Trautman, Marques Callaway. Ce ne sont pas des noms, en effet, qui font rêver tous les gens qui découvrent la NFL et qui ne connaissent pas forcément. Mais après, en effet, il y a eu 39 courses pour 21 passes. Donc, ça a été un match quand même beaucoup mis dans les mains d'Alvin Kamara, qui a 20 courses. Donc, c'est autant de passes, autant que Jameis Winston a de passes. Ils ont 171 yards au sol pour 151 yards à la passe. Il y a un rôle énorme de la ligne offensive aussi. Ils ont détruit Green Bay dans les tranchées, Raphaël.
Oui, ils ont effectivement, d'ailleurs, des deux côtés, des deux côtés du terrain, j'ai envie de dire, on pourrait y revenir après, mais oui, c'est... on n'est pas très surpris par le niveau de cette ligne offensive quand même de New Orleans, qui a probablement la meilleure paire de tackles de la ligue, qui a des joueurs solides au poste de garde et de centre, enfin... Pas de surprise là-dessus, et qui sait, grâce à son plan de jeu, avoir une ligne qui limite les dégâts, même quand des fois elle peut être un peu débordée. Donc là-dessus, effectivement, moi, j'ai pas eu de surprise, surtout du côté de Green Bay, on y reviendra aussi. Le nouveau schéma défensif a pas fait ses preuves pour le moment. Donc, bon, comme vous dites, après, sur Winston, on va pas s'emballer, mais il y a, enfin, c'est quand même positif ce qu'on a vu, et on dit qu'il y a plus de passes, enfin plus de courses du coup pour Alvin Kamara, etc. Mais contre Sean Payton, là-dessus, pour moi, a raison. Il insiste sur ce qui marche sur ce match, et il a eu raison de le faire, parce qu'au contraire, on a vu dans d'autres matchs, on y reviendra aussi dans l'émission, il y a des coachs qui, des fois, ont peut-être abandonné certains trucs qui semblaient marcher un peu vite, un peu précipitamment. Donc au moins, Sean Payton a eu le mérite d'être constant sur son play calling dans tout ce match. Donc moi, offensivement, c'était parfait. Il y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein.
Lucas, donc Winston qui prend pas un seul sac. Encore une fois, on parlait de Alvin Kamara, des receveurs. Il est aussi aidé par la ligne offensive, clairement.
Oui, il est forcément aidé par la ligne offensive, aidé par le système offensif, par le coach. C'est vrai que cette ligne l'a mis dans de très bonnes conditions. Et puis, quand on a un Alvin Kamara à qui on peut donner le ballon, tu l'as dit, 20 courses, c'est au moins autant de passes auxquelles il faut ajouter les réceptions. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il me semble qu'il y en a 3. Ce qui fait qu'il a touché plus le ballon que Winston. Donc, c'est vrai qu'il était dans un fauteuil. Et en plus, voilà, je le répète, c'est un blowout. Donc, il n'a pas forcé, il n'a pas lancé loin. Il lance loin que quand il en a vraiment besoin, ou quand il y a vraiment l'opportunité. Ça donne un magnifique touchdown, parce que lui, il est vraiment capable de le faire. Ça, s'il y a bien une chose que Winston il peut faire, c'est envoyer une bombe parfaite. C'est juste que de temps en temps, il a tendance à forcer, Raph le disait sur les linebackers, et quand il n'a pas à forcer, quand le coach le met dans de très bonnes conditions, et que la ligne devant lui le met dans un fauteuil, c'est un très bon quarterback, Winston. Il est drafté très haut dans la draft. Je me trompe toujours des drafts, donc je ne vais pas oser donner la date. L'année 2015.
Je dirais 15, ouais.
Il y a quelques années, quoi. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui fait que ce joueur est un très bon joueur. Maintenant, il faut qu'il ait le bon environnement autour de lui. Il semble l'avoir trouvé. Espérons que ça continue. En tout cas, c'est vrai que première semaine parfaite.
Première semaine parfaite donc pour Jameis Winston, pas du tout parfaite pour la ligne offensive des Packers. Raphaël, tu l'as dit, dominée elle aussi, 6 quarterback hits, 2 sacks, 3 turnovers provoqués par la ligne défensive des Saints. Est-ce qu'ils ont été exceptionnels, ou est-ce que Green Bay a été aux fraises? Parce que depuis tout à l'heure, on dit ils ont été impeccables en attaque, etc. Mais Green Bay a quand même été assez hors sujet.
Oui, oui. Après, ça m'embête toujours parce que j'ai pas envie de retirer aux Saints le crédit sur cette prestation, et notamment défensivement, parce que on l'avait dit hein, dans les pastilles d'avant saison, qu'il y avait quand même un gros front seven du côté de New Orleans qui est très sérieux, très appliqué depuis plusieurs saisons, et notamment depuis que Denis Allen est leur coordinateur défensif. Donc, j'ai pas envie de retirer tout le mérite aux Saints qui l'ont déjà fait, hein, même l'an passé. On se rappelle du match qui gagne 38-3 contre Tampa Bay en début de saison. Enfin, c'est quand même une équipe qui est capable d'élever son niveau défensif quand il le faut. Donc, je dirais quand même qu'il y a une vraie domination des Saints. Par contre, effectivement, oui, les Packers ont, je pense que je vois aussi où tu veux nous emmener, les Packers ont semblé pas très préparés pour ce match, pas très concernés.
Mais alors, je veux pas forcément vous emmener sur du psycho ou des trucs comme ça, mais je dis juste que statistiquement, donc on a quand même un truc qu'on voit très très rarement à Green Bay, c'est-à-dire que Aaron Rodgers a 15 sur 28, 133 yards, 2 interceptions, pas de touchdown, 229 yards au total pour l'attaque, c'est quand même très très peu. Rodgers qui sort avant la fin du match parce qu'ils prennent un carton, ce qui est assez rare. Je me demande si c'est même pas c'est les premières minutes de Jordan Love en saison régulière, du coup, grâce à ça. Donc voilà. Après, évidemment, si je suis taquin, je dis qu'on m'a vendu The Last Dance et finalement c'est Waterloo ou la retraite de Russie. Donc, voilà. Mais est-ce que forcément ils sont rattrapés par leur intersaison? J'en sais rien. Mais là, sur le plan du jeu, Lucas, est-ce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a vu quand même une débâcle, quoi.
Alors, tu veux pas nous amener, tu veux nous amener nulle part. Raph veut pas trop enlever le mérite aux Saints. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je veux pas surréagir. C'est que la première semaine, je vais essayer de pas le faire pendant tout ce podcast. Mais là, clairement, c'était nul. C'était des deux côtés du terrain, c'était vraiment pas bon. Rodgers, on avait l'impression qu'il avait pas envie d'être là. Je suis désolé, mais moi, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé à l'intersaison, même s'il en a un petit peu parlé. Je sais pas ce qui va se passer ensuite. Je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Je regarde juste ce qui se passe sur le terrain. Et peut-être que j'analyse des choses et j'ai tort, mais j'avais l'impression qu'il avait pas envie d'être là. 3 points. Je sais pas s'il a déjà mis 3 points, dans sa carrière souvent. Je suis pas sûr. En tout cas, on parle du MVP de l'année dernière. Il recommence avec 3 points. C'est 1 sur 10 sur les troisièmes tentatives. On parle d'un quarterback qui a la trentaine vraiment passée. On parle d'un quarterback incroyable qui va rentrer au Hall of Fame. Voilà. Après, tu parlais de la ligne offensive. Elle l'a vraiment pas aidé. La défense n'a vraiment pas été bonne. C'était catastrophique. Alors, peut-être que je suis un peu dur et que c'est la première semaine et j'espère qu'ils vont me faire mentir, mais c'était catastrophique.
Là, au moins, les choses sont claires. T'as piqué ma curiosité. Je regardais combien de points au minimum ils avaient marqué l'an dernier. Visiblement, ils n'ont jamais été en dessous de 10 points. Je crois que leur plus petit total, c'est 10 points quand ils perdent contre les Buccaneers 38-10 en semaine 6 l'an dernier. Donc voilà, Raphaël, il a mis les pieds dans le plat. On est obligé d'enchaîner. Clairement,
oui, non, mais
ils n'étaient pas là.
Ils n'étaient pas là, c'est catastrophique. Après, disons que ça a été tellement catastrophique des deux côtés du terrain que j'ai du mal à croire que ça puisse être comme ça pendant 17 semaines. Je me dis, les mecs vont quand même remonter la pente à un moment parce que il y a des absences, notamment sur la ligne offensive. Ça s'est vu qu'un Bakhtiari manque énormément sur ce match. Voilà, mais on a vu aussi un Davante Adams qui fait un drop sur une 4e tentative alors qu'il a la balle dans les mains, ce qu'on n'a pas vu beaucoup ces dernières saisons. Donc, clairement, on a le sentiment que des deux côtés, c'était pas bon. Et c'était tellement pas bon que, voilà, pour revenir au début de mon propos, je pense que ça peut pas continuer à ce niveau-là. Ou alors, c'est vraiment qu'on s'est tous plantés sur le mal qui ronge ce groupe. Hein. Et bon, les semaines vont nous le dire, mais...
Après, moi, je surréagirais pas non plus. Ils sont toujours largement favoris de cette division, par exemple. Quand on voit ce qu'on a vu pour les Vikings, pour les Lions, pour les Bears.
Oui, bien sûr.
La semaine prochaine, ils jouent contre Détroit. Attention.
Ah ouais, t'en es là.
Non, mais j'en suis pas là, mais on a vu que Détroit, j'ai l'impression que Détroit, alors peut-être que j'avance un peu trop vite dans le podcast, mais Détroit, pour moi, c'est tout l'inverse en termes. C'est une équipe qui a peut-être beaucoup moins de talent, voire peu de talent, voire.
Pas du tout de talent ou pas de connexion, parce qu'on a un petit, une petite coupure. On va récupérer Lucas.
Oui, je pense qu'il voulait nous parler de
Lucas,
leur cœur.
Lucas, tu t'emballais sur les Lions.
Je m'emballais sur Lions, on m'a coupé, je crois que. Non, mais je disais que c'est une équipe qui a peu de talent, mais qui a du caractère et qui a un mental, en tout cas, de ce qu'ils ont prouvé sur cette première semaine. Et j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, en tout cas, de ce que Green Bay a montré cette semaine.
On aura la réponse donc la semaine prochaine. Raphaël, t'avais quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe aux Titans Cardinals?
Non, mais sur les Packers, peut-être quand même à surveiller. Ce que j'ai trouvé peut-être encore plus inquiétant, c'est la très faible prestation du jeu au sol qui a eu l'air d'être bien impactée par la mauvaise performance de la ligne offensive. Va falloir surveiller parce que faudrait pas non plus que, même tout Aaron Rodgers qu'il est avec Davante Adams, etc., faudrait pas que le jeu aérien de Green Bay se retrouve un peu seul cette saison, quoi. Ça pourrait vite compliquer les choses, donc il va falloir quand même surveiller de ce côté-là.
2,9 yards par course, en effet, c'était assez vilain. On enchaîne avec les Titans 13, Cardinals 38. Quelle est l'histoire la plus importante de ce match pour les Cardinals, messieurs? Est-ce que c'est l'attaque ou est-ce que c'est la défense? Parce qu'on a quand même eu une domination à peu près totale hein, d'Arizona. On a 5 touchdowns pour Kyler Murray, 5 sacks pour Chandler Jones. Quel est le plus important pour vous? Allez, Lucas.
Chandler Jones, j'ai envie de parler de Chandler Jones et donc du coup la défense, mais c'est vrai que Chandler Jones, il revenait, on en avait parlé un petit peu tous ensemble, messieurs, pendant le Power Ranking, on disait que ça allait être important pour lui, il revient avec un match incroyable, un premier carton incroyable, il a fait des misères à toute cette ligne offensive, et du coup derrière, il y a toute la défense qui s'est mise au niveau, qui a les linebackers, Isaiah Simons. Alors, Zaven Collins a été un petit peu plus discret, mais si il suit la progression d'Isaiah Simons, ça peut être en fin de saison un duo très intéressant. Ils ont limité le jeu de course, ils ont limité Derrick Henry. Je me concentrerai, en tout cas, je retiens plus la défense parce que c'est un peu plus nouveau, on va dire. L'attaque, elle est un peu plus irrégulière. Elle était un peu plus irrégulière l'année dernière, mais on a vu qu'ils étaient capables de faire ça. La défense, j'étais agréablement surpris.
C'est vrai que l'attaque, on sentait que ça montait en puissance ces dernières années. Raphaël, en effet, cette défense, on ne l'attendait peut-être pas. En plus, stopper une équipe des Titans, qui pour le coup était attendue en attaque. Il y avait Derrick Henry, Tannehill, Julio Jones, etc. Là, on a 58 yards pour Derrick Henry à 3,4 yards par course. Julio Jones à 29 yards, Tannehill qui prend 6 sacks. Si les Cardinals gardent ce niveau défensif, ils ne vont pas être bons à prendre.
Ouais, effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est quand même la défense qui est le premier truc à retenir de ce match. Tu l'as dit, pour eux, c'était un premier test d'entrée de jouer les Titans, c'est leur attaque. Et ils l'ont réussi à tous les niveaux. Je trouve collectivement, on les voyait pas aussi forts contre la course. Donc là, ils ont quand même vachement surpris au niveau du front seven sur la défense contre la course. Et puis, comme Lucas avait commencé à le dire, individuellement, on a aussi on a vu des vraies progressions et je pense que Isaiah Simons, leur linebacker slash potentiel homme à tout faire, couteau suisse dans cette défense, là pour le coup c'est l'illustration de ce qu'on est en train de dire parce que il semble avoir vraiment progressé par rapport à l'an dernier et donc du coup ça avec le retour de Chandler Jones bon là sur ce match c'est il y a même pas de superlatif parce que 5 sacks, 4 plaquages pour perte, enfin bon, voilà, c'est une performance hors norme, mais si tous les jeunes joueurs de cette défense élèvent aussi leur niveau de jeu, comme tu dis, ça commence à être une défense et une équipe à prendre très très au sérieux, donc va falloir le confirmer parce que c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Non, mais j'ai été agréablement surpris. Ça va demander à l'analyser, j'ai envie de dire, un peu plus précisément dans les semaines qui viennent, hein, sur ce qui vraiment fonctionne encore mieux cette saison, mais pour une première impression, c'est une sacrée sortie. Ouais.
Bah, il y a un peu ce mix de jeunesse avec Simmons qui a 2 passes déviées, 9 plaquages, un JJ Watt qui apporte des choses avec un gros plaquage dans le backfield sur Derrick Henry notamment. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, mais c'est vraiment un fait hyper intéressant. Et puis, il y a cette attaque qui marche toujours évidemment très fort avec DeAndre Hopkins, Christian Kirk et donc un Kyler Murray en feu. On sent qu'il continue de progresser. Et est-ce que là, du coup, c'est le niveau normal de cette attaque ou est-ce qu'ils étaient un peu en sur-régime, ils étaient bien ou alors est-ce que ça va être ça toutes les semaines?
On va voir. Mais en tout cas, Kyler Murray a le potentiel pour jouer comme ça toute l'année. Et je dirais même plus qu'il a peut-être même le potentiel de jouer encore un petit peu mieux. Alors, je suis un peu tatillon, mais il envoie une interception qui est pas très jolie à un moment. Mais il a DeAndre Hopkins qui, lui, est excellent depuis des saisons et on le voit pas abaisser son niveau dans l'année. Tu parlais de Kirk. Il y a aussi AJ Green qui peut dépanner quand il est plus l'option numéro 1 dans une attaque qui est bien construite. Il peut faire quelques dégâts. Et puis, j'ai bien aimé leur duo de running back aussi, Edmonds
et Connor,
voilà, qui apporte quelque chose d'assez polyvalent dans la course. Alors, ça sera certainement pas l'arme principale des Cardinals, mais ça peut aider pour alterner dans des matchs où il faut garder un petit peu le ballon. Voilà, les deux, ils sont assez polyvalents, ils sont assez complémentaires. Donc, cette attaque, elle a le potentiel, en tout cas, pour être comme ça En tout cas, de jouer à ce niveau, peut-être pas marquer autant de points toutes les semaines, c'est difficile, mais jouer à un niveau élevé toutes les semaines.
Alors, ça a été beaucoup plus compliqué, on l'a dit, pour les Titans. En attaque, est-ce qu'on peut, brièvement pour les Titans, dire « Ok, bon, bah, ça arrive, c'est début de saison » ou alors est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment inquiété ? Parce qu'encore une fois, on est aussi dans cette émission, dans cette difficulté d'essayer de ne pas tirer des conclusions hâtives. Il n'y a eu qu'un match, il en reste 16 pour chaque équipe. A priori, les Titans ont quand même de quoi se relancer, non ?
Offensivement, oui, je pense. Alors, leur ligne offensive est pas dans les meilleurs de la ligue. C'est pas un des 5, voire peut-être même 10 meilleurs groupes de la ligue à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils ont quand même les moyens de mieux faire. Et c'est vrai qu'on l'a vu quand dans un match, un quarterback prend autant l'eau sur sa ligne offensive. Quoi qu'il arrive, le résultat est compliqué derrière. Enfin, on a forcément une image, même si on ne peut pas toujours tout comparer, mais Patrick Mahomes au Super Bowl, tout Patrick Mahomes qu'il est, à partir du moment où sur tous ses snaps, il était sous pression, il n'a pas réussi à trouver la solution. Là, Tannehill, on avait un peu l'impression qu'il était sur tous les snaps sous pression. Bon, bah, difficile de pouvoir développer quoi que ce soit. Donc, je pense qu'offensivement, va falloir vérifier. La ligne offensive peut se reprendre. Il faut peut-être aussi s'adapter au départ d'Arthur Smith, hein, leur coordinateur offensif. Voilà, ça demande peut-être pour eux cette saison 2-3 semaines pour bien se roder offensivement. Mais sur le papier, pour moi, il y a quand même trop de talent dans cette attaque pour qu'il soit cantonné à 10 points toutes les semaines. Enfin, moi, j'y crois pas à titre personnel. Mais...
Alors, par contre, la défense, comme prévu, ça va être compliqué. Ils prennent plus de 400 yards, même si c'était une très bonne équipe des Cardinals en face, mais ils n'ont pas l'air d'avoir de solution pendant trois quarts temps. Lucas, un peu comme on l'avait annoncé dans les previews, la défense s'annonce être le talon d'Achille de cette équipe de Tennessee, quoi.
Oui, clairement. Et ça peut poser souci à l'avenir parce que, Raph le disait, cette attaque, elle ne devrait pas rester à 13 points durant toute l'année. Mais le problème, c'est que cette attaque des Titans, j'ai l'impression qu'elle est, construite pour la course et cette course permet d'ouvrir les play action. On sait que Tannehill, il est très bon en play action et d'ouvrir derrière des Jay Brown, des Julius Jones. Et le problème, c'est que si cette défense, elle prend des points et beaucoup de points d'entrée, ils vont être obligés de courir derrière le score. Et je pense que les Titans, c'est vraiment le pire des scénarios pour eux, de courir derrière le score s'ils veulent mettre en place leur système offensif. Et du coup, la défense va être extrêmement importante. Là, ils prennent beaucoup de points d'entrée. Et du coup, derrière, l'attaque, elle est plus dans son rythme. Henry est moins utilisé et les play-action ne marchent plus parce que si la course, elle est plus crédible, ben, les play-action le sont encore moins. Donc, comme tu le dis, la défense, ça sera le talon d'Achille parce que il faut qu'elle laisse la chance à cette attaque qui devrait être meilleure.
Oui, c'est vrai que c'est pas sûr qu'ils marquent que 13 points chaque semaine, mais ça peut être probable qu'ils en prennent quasiment une trentaine chaque semaine à ce rythme-là. Donc, ça peut être le problème. Compliqué. En tout cas, 25 dans ces eaux-là. Bills 16, Steelers 23. Ça a été deux équipes dont on a beaucoup débattu, je me rappelle, dans le power ranking d'avant-saison. Les Bills étaient très hypés, les Steelers étaient très contestés à cause de leur ligne offensive. Finalement, cette ligne offensive, elle n'a pas forcément été très, très bonne, mais il faut croire quand même que le reste fait partie des tout meilleurs de la NFL et que ça a plutôt bien marché. Grosse pression défensive des Steelers sur Josh Allen, limité à 30 sur 52, sacké trois fois. Est-ce que les Bills ont ressenti, alors à la fois la pression de cette exceptionnelle défense de Pittsburgh, hein, mais aussi un peu l'absence de leur jeu au sol, parce que c'est quand même une des équipes qui a le moins d'options là-dessus. Et quand Allen se retrouve sous pression, non, Raphaël n'est pas d'accord. Je
sais pas si c'est ça, dans le sens où l'an dernier on l'a vu, déjà le jeu au sol de Buffalo était pas exceptionnel et pourtant Buffalo arrivait à déployer et développer son jeu offensif aérien. Je suis pas persuadé que ce soit le principal problème sur le coup sur ce match.
D'autant que je suis mauvaise langue parce qu'il gagne quand même 117 yards au sol, donc c'est pas tout à fait absent. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Lucas ? Est-ce que cette défense de Pittsburgh est juste trop forte ?
En tout cas, sur ce match, elle a été. Sur ce match, elle a été vraiment, vraiment incroyable. On le savait, le front seven, c'est quelque chose qui est très important et qui était très bon l'année dernière du côté des Steelers. On le savait qu'il allait être aussi fort. En tout cas, on s'en doutait et il l'a prouvé. On avait un tout petit peu plus de questions sur le backfield défensif parce qu'il y avait eu pas mal de changements. Et j'étais agréablement surpris par le backfield défensif. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de couvrir des receveurs quand le quarterback adverse est mis sous pression et peut pas bien analyser la situation. Mais je les ai trouvés plutôt bons. Cameron Sutton a été bon. Ils ont été un petit peu plus en difficulté quand il y avait beaucoup d'espace derrière eux. Josh Allen loupe 2-3 balles qui auraient dû finir en touchdown. Mais ça, bah, c'est grâce au front seven. Mais quand le terrain s'est un peu raccourci, je les ai trouvés très bons. Et ce qui donne une défense très complète comme l'année dernière. Et du coup, ça donne une équipe des Steelers qui devient très dangereuse, du moins du côté de la défense, parce que on en parlait des Titans, la défense laisse pas la chance à l'attaque. Là, pour le coup, les Steelers, eux, ils laissent vraiment la chance à l'attaque. Mmh. Alors même si cette attaque, on va en parler certainement, elle est pas forcément exceptionnelle, mais au moins elle a la chance jusqu'à la fin du match. Et bon, quand on a Big Ben, bah, à la fin, ça peut finir en victoire.
Tu l'as bien dit, ils deviennent bons quand le terrain se raccourcit, parce que statistiquement, les Bills gagnent 371 yards contre 252 aux Steelers, hein, donc ils ont l'avantage statistique. On pourrait presque modérer d'ailleurs en disant que Pittsburgh gratte un touchdown sur un punt bloqué, ce qui n'arrivera pas dans tous les matchs, et ce qui fait la différence, pareil, au tableau d'affichage hein, sur ce match. Donc il n'y a pas une énorme différence, mais ils sont au-dessus. Raphaël, toi aussi convaincu par ce combo défense très très forte et attaque qui fait le taf.
Oui, oui, ils sont au-dessus, et je trouve que la remarque de Lucas s'illustre d'ailleurs dans le fait que les Bills sont à 1 sur 4 en red zone. Ils ont vraiment galéré dans la red zone de Pittsburgh, parce que justement, il y a ce front seven qui rajoute de la pression supplémentaire. On a vu aussi beaucoup de passes déviées par la ligne défensive de Pittsburgh, hein, Cameron Hayward notamment, qui dévie deux ballons, enfin... Donc effectivement, la remarque de Lucas pour le coup sur le terrain réduit avait l'air d'avantager Pittsburgh. Et après, comme tu dis, les craintes qu'on avait sur la ligne offensive de Pittsburgh, on l'a retrouvée. Une ligne offensive qui l'a mis en difficulté sur de nombreux snaps. Par contre, les quelques snaps où ça a tenu, où Big Ben a eu un peu de temps et que ses receveurs ont eu un peu de temps pour se démarquer, Pittsburgh a réussi à faire la différence une ou deux fois, à marquer suffisamment de points. Il y a aussi ce retour de punt. Donc voilà, et c'est pour ça. Et ça, je trouve que ça défend aussi la place où on les avait mis dans le power ranking, alors qu'on avait des gens qui nous disaient non, il faut les mettre bien plus bas à cause de leur ligne offensive et tout. Et ben justement, non, on voit que c'est un groupe bien coaché. On voit qu'il y a une très forte défense et on voit qu'il y a un Big Ben qui est encore capable de saisir 2-3 opportunités par match. Ça risque d'être peut-être pas suffisant pour la fin de saison pour aller plus loin, mais en tout cas pour embêter pas mal d'équipes dans la ligue et gagner beaucoup de matchs, ça devrait passer comme solution. Donc non. Moi, au final, je trouve que c'est l'équipe de Pittsburgh. Ce qu'on a vu, c'est ce à quoi on s'attendait en fait de Pittsburgh, finalement, je trouve.
Ouais, et même un tour en dessous, parce qu'il gagne quand même que 54 yards sur la première mi-temps. Je pense que là, il y avait aussi un peu de retour de vacances petit à petit. Je pense pas qu'ils gagneront. Ils seront aussi poussifs en début de match à chaque fois. Mais ils ont tellement d'armes. Smith-Schuster, Claypool, Diontae Johnson. Enfin, il y a même le rookie Freiermuth prend une réception de 24 yards. Donc, il y a quand même du matos un peu à tous les niveaux. Najee Harris a peiné, mais forcément, il y a pas de ligne. Donc, c'est très compliqué. Un mot sur les Bills pour terminer avec ce match. Ça reste, encore une fois, ça s'est joué à pas grand chose. Ils gagnent beaucoup de yards, ils ont pas de bol sur un punt bloqué. On s'inquiète pas outre mesure pour cette équipe de Buffalo qui reste quand même parmi les plus complètes de la ligue, Lucas.
Je sais pas. J'ai du mal à analyser. Je vais pas dire que je m'inquiète, j'ai du mal à analyser ce match, pardon, parce que d'un côté, on peut dire oui, les Bills, parce que on parlait de leur défense qui avait pas été très bonne l'année dernière, elle a quand même été solide, parce qu'on parle de pas enlever le mérite. Si cette attaque des Steelers n'avance pas beaucoup, c'est aussi parce que la défense était bonne. Il y a Tre'Davious White qui muselle bien Claypool pendant une grosse partie du match. Donc cette défense semble s'améliorer, être peut-être un peu meilleure que l'année dernière. Et donc on pourrait se dire, si on est les Bills, bah voilà, notre défense, elle a l'air d'être meilleure, on va pas jouer la défense des Steelers toutes les semaines, donc notre attaque sera peut-être certainement meilleure. On sait qu'elle a prouvé l'année dernière, donc il y a des matchs qu'on risque de gagner. Mais en même temps, on peut se dire aussi que si on a l'objectif d'aller plus loin que l'année dernière, c'est-à-dire plus loin que les finales de conférence, donc le Super Bowl, clairement les Bills, si cette année ils jouent le titre, il va falloir battre des équipes comme les Steelers, comme les Browns, comme les Chiefs, qui sont un petit peu construites un peu différemment, mais il va falloir battre ce genre d'équipe. Donc on s'inquiète pas, mais comme les Bills ont des ambitions très hautes, ben c'est le genre de match qu'il faut gagner quand même.
Raphaël, pas d'inquiétude en deux mots?
Non, pas encore. On va attendre de voir. On a quand même vu sur certaines phases de jeu que les qualités de l'an dernier étaient là. Donc bon.
Chiefs 33, Browns 29, toujours pas. Comme en playoff l'an dernier, les Browns s'inclinent contre les Chiefs, encore avec un grand Patrick Mahomes. Cleveland menait 22-10 à la pause. Ils prennent un 23-7 en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces Browns qui n'y arrivent pas, donc, du côté des Chiefs? 397 yards pour les Chiefs, 457 yards pour les Browns. Il y a eu du chiffre hein, en attaque. Ça n'a pas été forcément la journée des défenses. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que ça passe pas, Lucas?
Peut-être, bon, déjà, qu'est-ce qui fait que ça passe pas? C'est parce qu'en face, il y a Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce, mais ça, c'est la réponse un petit peu facile. Du côté des Browns, qu'est-ce qui fait que ça passe pas? J'ai envie de dire peut-être un petit manque d'expérience parce qu'ils font une super première mi-temps en défense. Je crois qu'il faut attendre le milieu du deuxième quart-temps pour voir un touchdown du côté des Chiefs, qui doit être relativement rare. Ils se font un petit peu plus débordés en deuxième mi-temps, mais ils restent plus ou moins dans les clous. Et il y a l'attaque qui commence à être un petit peu plus en difficulté. Les Chiefs ont élevé un peu leur niveau. On le sait qu'ils sont capables d'élever leur niveau quand les moments sont un peu chauds des deux côtés du terrain. Et du coup, il y a une interception de Baker Mayfield qui est pas très belle. Je dirais un petit peu de manque d'expérience, mais voilà. Avant le match, je me disais que ça allait être dur pour les Browns d'aller gagner sur le premier match de la saison du côté de, enfin, chez les Chiefs. Mais il fallait une défaite encourageante, même si une défaite n'est jamais trop encourageante. Mais là, je trouve que ils peuvent sortir de cette semaine une avec certaines certitudes.
Raphaël, est-ce que tu leur donnes la défaite encourageante?
Oui, je leur donne la défaite encourageante. Forcément, perdre de si peu à Kansas City en début de saison comme ça, avoir mis Kansas City en difficulté, c'est forcément des signes positifs pour Cleveland. Tu demandais ce qui s'est passé. Ils se sont quand même tirés des balles tout seuls dans le pied. Enfin, on pense à ce punt où le punter relâche le ballon. Puis, au lieu d'avoir un punt qui te permet de te dégager, bah, tu te retrouves dans ton propre terrain face aux Chiefs. On l'a toujours dit, hein, depuis 2 ans, depuis que Patrick Mahomes est titulaire de cette équipe des Chiefs, tu dois faire le match parfait pour les battre. Bon, bah, il y a 2 erreurs et ça passe pas. Les seuls qui ont fait un match parfait jusque-là, bah, c'était l'an dernier Tampa Bay. Voilà, c'est un peu bateau à dire, hein. C'est un peu bateau à dire, mais factuellement, ces Chiefs-là sont toujours dans le match grâce à leurs atouts, et donc il faut que tu sois toi parfait de ton côté. On a vu aussi un jeu au sol de Cleveland qui a perdu un ballon un peu bêtement. Enfin, voilà, 2 petites erreurs qui te coûtent le match, mais après ça reste encourageant parce qu'on a quand même vu justement un jeu au sol qui, malgré cette erreur, le duo Hunt-Chubb reste très très performant. La ligne offensive est restée bonne, même s'il faudra faire attention à la blessure de Jedrick Wills qui peut être un peu embêtant pour la suite. Et puis on a quand même vu une ligne défensive où Miles Garrett est toujours là, on a vu un Denzel Ward de bon niveau. Enfin, globalement, c'est quand même une équipe de Cleveland qui, à mon sens, a confirmé qu'ils allaient être dans les top équipes de leur conférence cette saison.
Je rajoute dans les playmakers des Chiefs, parce qu'on a beaucoup parlé de l'attaque, il y a Chris Jones évidemment avec 2 sacks et des grosses actions décisives, qui fait partie de ces joueurs des Chiefs en effet qui sont là, bah, même s'ils prennent des yards, même s'ils sont malmenés, ils sortent toujours quelque chose, comme Kelce va sortir un truc en attaque, Chris Jones va sortir un truc en défense, donc en effet faut être parfait. Un mot sur Baker Mayfield pour terminer sur ce match, 21 sur 28, 321 yards, d'une interception. Est-ce que il a l'étoffe du quarterback qui va suivre dans les grands matchs? Parce que bah, il n'y a pas de touchdown sur la feuille de stats. Alors ils finissent toujours au sol, c'est Cleveland, mais voilà. Est-ce que il faut regarder vers lui aussi pour une des causes de la défaite, parce qu'il n'y a que 7 points en deuxième mi-temps?
Il lance, comme je le disais, cette interception en fin de match qui me plaît pas trop. Parce que c'est un moment décisif, parce que c'est là où on le dit, les grands quarterbacks ressortent. Après, il fait pas un mauvais match. Il est bien coaché aussi. Moi, je retiens aussi que cette équipe des Browns, elle va être fun à voir jouer, parce qu'il joue les 4e tentative. Il y a des playmakers. Il manquait Odell Beckham Jr. aussi. En attaque, c'est important, même si on le voit plus dans cette attaque. Ça fait un moment qu'il loue pas mal de matchs. Mais Baker Mayfield, c'est sûr que c'est pas Patrick Mahomes, c'est peut-être pas lui qui va être incroyable, mais il a assez de talent et assez de joueurs autour de lui pour faire gagner des matchs, je pense.
Raphaël, Baker Mayfield, pas d'inquiétude pour le moment?
Non, écoute, une interception en fin de match, ça arrive. Globalement, il avait quand même jusque-là bien mené l'équipe. Bon, j'attends de voir. C'est jamais facile comme ça à l'extérieur. C'est que le match de première journée. À la limite, on attend à ce qu'il fasse mieux en fin de saison. Donc, je suis pas plus inquiet. Par contre, juste pour finir, Kansas City, les petites inquiétudes autour de l'équipe restent les mêmes. Hein. Pas de cible en dehors de Hill et Kelce. Une ligne offensive qui a pu un peu inquiéter, notamment Orlando Brown sur le côté aveugle, qui a quand même bien pris la pression. Voilà. Mais bon, Patrick Mahomes, Hill et Kelce.
Petite pause et les autres matchs.
Hi, this is Darren Wall from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
Hold up.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Darren Waller, meilleur joueur jamais coaché par John Gruden. Hein, je précise, selon lui-même, on rappellera quand même que John Gruden a coaché Jerry Rice. Vous retrouverez la décla notamment sur le site. On va en parler des Raiders, mais pas tout de suite. On va commencer avec le Rams-Bears, 34-14 pour les Rams. Ça commence très bien pour Matthew Stafford. 2 touchdowns de plus de 50 yards, une victoire assez nette, 320 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Je parlais d'essai transformé pour James Winston tout à l'heure. Tiens, je vais rester dans le même vocable. Essai transformé pour l'arrivée de Matthew Stafford aussi, là, Raphaël.
Oui, essai transformé. Le plus intéressant offensivement, c'est quand même qu'on a vu ce que Stafford apportait en plus de que Goff. C'est cette capacité à étirer le jeu et à aller chercher de la verticalité, ce jeu en profondeur. La stat est passée pendant le match. Stafford, sur ce match, a fait 2 passes de plus de 50 yards sur ce match, quand Goff, l'an dernier, n'en a fait que 2 toute la saison. Oh, voilà, ouais. Du coup, ça étire complètement ça ouvre le champ des possibilités pour le playbook de Sean McVay. Donc, à partir de là, et puis pour les fans, c'est quel plaisir aussi d'aller voir ça, des bombes pareilles au stade.
La stat est très dure, mais je crois que le plus horrible pour Jared Goff, c'est que il y a pas un jour où j'ai l'impression que Sean McVay fait pas une conférence de presse où il tacle Jared Goff indirectement, parce que là juste après il a fait un truc du genre oui maintenant on peut faire toutes les passes qu'on veut ou genre tout le playbook qu'on veut maintenant qu'on a Matt Stafford. Donc il cite jamais Goff, mais c'est toujours ultra humiliant les conférences de presse de Sean McVay. Lucas, même impression, ça balance des missiles, ça déroule bien pour l'instant.
Ah oui, ça déroule très bien. D'ailleurs, je dois te le rendre, durant le Power Ranking, tu étais assez hypé sur les Rams. On l'était un tout petit peu moins avec Raph. Après ce match, alors c'est que le premier match, mais c'est vrai qu'ils s'annoncent comme des candidats solides, et notamment grâce à Matt Stafford. Comme vous le disiez, Sean McVay doit se régaler, il doit ouvrir le playbook, comme on dit, avec beaucoup plus de possibilités. Alors, ils ont un jeu au sol qui est encore un petit peu absent, en tout cas un petit peu par intermittence. Mais voilà, il y a des joueurs dans le jeu aérien, qui, et notamment Matt Stafford, qui permettent de mettre beaucoup de points. Il y a cette défense, ils ont vraiment une belle équipe, une équipe complète. C'était que les Bears en face, mais ça s'annonce une belle saison quand même pour Los Angeles.
Le sol, c'est un peu la thématique problématique pour les Rams, c'est-à-dire qu'ils prennent 5,2 yards par course aussi, hein, de l'autre côté. Donc ça a été, ils dominent les airs et ils ont plus de mal au sol. Je pense que c'est un peu ce qu'on peut tirer de cette rencontre, non, Raphaël? Je te vois.
Oui, on peut offensivement, c'est sûr. Après, sur la défense, pour moi, c'est plus lié au style défensif qui fait que en jouant avec ces 3 joueurs sur la ligne et en ne les collant pas au linemen offensif adverse, disons que ils ont eu un système de défense contre la course un peu plus préventif, on va dire. Ils laissent un peu l'adversaire un peu plus avancer pour bien le bloquer sur le deuxième rideau, mais pour être sûr d'être costaud sur les lignes aériennes. Et ça s'est vu, parce qu'encore une fois, l'ensemble du backfield défensif des Rams, ça fait un match quasi parfait avec très très peu d'opportunités données à l'adversaire. Donc moi, j'étais un peu inquiet sur la transition au niveau du coaching défensif. Ils ont l'air d'avoir gardé à peu près les mêmes ingrédients que l'an dernier. Donc ça me rassure pour eux à ce niveau-là. Je ne sais pas s'ils seront aussi forts jusqu'à la fin avec meilleure défense contre les points, meilleure défense contre les yards, etc. Mais bon, il y a quand même beaucoup de signaux positifs à la fin de cette soirée pour les Rams, malgré tout. Hein.
Pour les Bears, je vais poser la même question pendant quelques semaines. On fait jouer quand Justin Fields, du coup, puisqu'il a touché 3 ballons, 2 à la passe, 1 au sol, et il a marqué un touchdown de plus qu'Andy Dalton, qui a lancé 38 passes.
Ouais, c'est
un pas du tout réducteur.
Voilà, c'est un petit peu dur de le voir comme ça. Au final, en regardant le match et en ayant vu les autres rookies qui avait joué avant ou pendant. J'ai compris pourquoi certaines équipes ne faisaient pas jouer leur rookie d'entrée, parce que ça peut être traumatisant. Alors, on ne sait pas ce que vont donner les autres rookies, mais des fois, il faut un peu de temps quand même pour se mettre en place dans une attaque de NFL avec des joueurs de NFL, avec des défenseurs de NFL. Et avoir Andy Dalton, alors c'est sûr que sur ce match-là, il n'a pas fait grand-chose. Et je ne suis pas sûr que Justin Fields aurait fait mieux. Alors oui, les supporters aimeraient avoir le futur devant eux, se dire qu'ils font jouer un joueur pour que ça donne quelque chose dans le futur, mais il ne faut pas le cramer. Il ne faut pas le cramer. Et je pense que c'est... Au final, pourquoi pas? Pourquoi pas cette transition peut s'opérer au fur et à mesure de l'année. On l'a vu avec Justin Herbert l'année dernière. Il n'a pas joué dès le premier match. Et pourtant, Justin Herbert, il semblait prêt. Il semble toujours aussi prêt. Donc, je me dis, ça ne me dérange pas tant que ça de voir Andy Dalton. Sachant que les Bears, je ne suis pas sûr qu'ils visent grand-chose quand je vois cette défense.
Raphaël, tu es du même avis? Tu le préserverais, toi, Justin Fields?
Je sais pas. Pas si je le préserverais, je suis pas dans le staff, je vois pas ce à quoi il ressemble, donc j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Après, dans le fond, je peux comprendre aussi l'idée de le préserver, puisque de toute manière, la saison des Bears, il ne joue pas grand-chose a priori cette saison. Donc,
même si je rappelle, parce qu'on me le rappelle à chaque fois, qu'ils sortent d'une saison de play-off.
Oui, non, mais vu que tu joues pas énormément, est-ce que effectivement cette année-là ne peut pas servir à ton quarterback à apprendre en fait, il y a. Si tu veux, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a tellement d'exemples et de contre-exemples à ça que on te sort Mahomes d'un côté, de l'autre on te sort Herbert qui a été tout de suite efficace quand il a bénéficié de la piqûre dans le thorax de Tyrod Taylor pour être titulaire. Donc bon, je sais pas. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment le coaching staff qui l'a sous les yeux et qui doit prendre une décision. Par contre,
après Mahomes, je te coupe, excuse-moi, mais il avait un an derrière. Il a pas commencé sur son année.
Oui, c'est ce qu'il disait.
C'est que t'as l'exemple qui dit que c'est bien de laisser le quarterback rookie sur le banc et d'autres exemples qui vont te montrer que c'est pas bien. Donc j'ai pas d'avis. Après, par contre, la saison risque d'être un peu longuette du côté de Chicago, quoi qu'il arrive, parce qu'on a vu ce que Dalton a porté sur ce match. C'est un quarterback plutôt sérieux, mais il y aura pas grand chose de plus. Et bon, voilà.
Colts 16, 20, Seahawks 28. On va venir aux Seahawks, mais on avait aussi un nouveau quarterback, Carson Wentz. Donc, même chose, examen de passage réussi ou pas. 25 sur 38, 251 yards, 2 touchdowns. Est-ce que ça marche, Wentz, aux Colts? Alors, ça marche pas sur le résultat puisqu'ils ont perdu. Mais est-ce qu'il a remontré des choses qui pourraient vous redonner l'espoir qu'il redevienne le joueur qu'il a été pendant 6 mois, qui fait qu'on ait encore à parler de lui aujourd'hui? Voilà. J'essaie de remettre dans l'ordre de l'histoire.
Alors, il a été, malgré une ligne offensive qu'il a mis en difficulté, hein, parce que clairement, les Colts ont quand même pris le bouillon dans les tranchées sur ce match. Et malgré une ligne offensive en difficulté, je l'ai trouvé meilleur que ce qu'il faisait l'an dernier à Philadelphie avec une ligne offensive en difficulté. Donc voilà, c'était un peu mieux que l'an dernier. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, je demande à voir, il faut que ça se confirme tout ça. Mais j'ai trouvé que, si tu veux, dans un contexte où finalement il se retrouve avec une ligne offensive qui l'a pas autant aidé que prévu, avec un corps de receveur qui est quand même très limité. Bon, c'était pas catastrophique comme performance, comme il a pu l'être l'an dernier. Donc presque agréablement surpris, j'ai envie de dire.
Lucas à la moule, là, au faciès, il est moins agréablement surpris.
Ouais, un peu moins agréablement surpris. En fait, l'année dernière, en tout cas les années précédentes, on disait qu'à Philadelphie, il y avait une ligne offensive qui n'aidait pas du tout Carson Wentz et il prenait beaucoup de sacs. Il arrive chez les Colts, la ligne offensive est censée être un petit peu meilleure. Elle montre quelques difficultés sur ce match, mais il prend encore beaucoup de sacs, en tout cas beaucoup de pression. Il est beau. Et je me demande à quel moment ça sera la faute de Wentz. Je veux dire, s'il va dans plusieurs équipes et que le problème reste le même, alors je veux bien entendre qu'il n'ait pas la meilleure ligne offensive devant lui. Mais au bout d'un moment, je me dis que c'est peut-être aussi un petit peu de sa faute dans les lectures, dans le fait de lâcher le ballon. Il y a plusieurs fois où je me suis demandé si il aurait pas dû lâcher le ballon un petit peu plus vite. Alors c'est vrai que le corps de receveur n'est pas exceptionnel, n'est pas incroyable, mais je trouve que à chaque fois, Wentz, on essaye peut-être de lui trouver des excuses. Alors c'est vrai qu'il joue, mais il y a des quarterbacks qui arrivent à faire au moins autant que lui, voire un petit peu plus, avec des équipes qui sont au moins aussi fortes, voire un petit peu moins. Les Colts, l'attaque des Colts, c'est pas non plus une des pires attaques de la ligue.
Non, non, mais clairement. Du côté de Seattle, on a réalisé évidemment un match plein, on l'emporte. Vous l'avez dit, ils ont mis beaucoup de pression sur Carson Wentz. Et puis en attaque, 381 yards, 23 passes, 27 courses équilibrées. Wilson, Russell Wilson a 4 touchdowns sur 18 passes complétées. C'est très prometteur pour que les Seahawks ont l'air plus complexes que les années précédentes.
Pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment la perf défensive, on va dire, à retenir en priorité. Comme tu l'as dit, ce pass rush qu'on attendait peut-être pas à ce niveau-là, surtout face à la ligne offensive des Colts. Hein. Donc même si, comme Lucas l'a dit, il y a peut-être une part de Vence un peu là-dedans, mais on a eu aussi ces dernières saisons la tendance de voir une équipe de Seattle qui n'était pas très efficace sur le pass rush contre à peu près n'importe qui. Donc là, le fait qu'ils arrivent à l'aide, c'est quand même assez prometteur à ce niveau-là. J'ai trouvé un backfield défensif pas si aux abois que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Ils ont quand même bien limité globalement Indianapolis, même si c'est pas une des top attaques, ça demandera à être confirmé. Donc à partir du moment, et c'est un peu moi ce que j'avais sous-entendu dans la preview, dans le power ranking, etc. de Seattle, c'est que leur défense, ça me semblait compliqué qu'elle soit aussi mauvaise que l'an dernier. Je ne la voyais que potentiellement progresser. Donc à partir de là, ça devient une des équipes très complètes de la Ligue parce qu'en attaque, ça déroule. Alors est-ce que ça déroulera toute la saison? Parce que l'an dernier aussi, ils avaient démarré très très fort en attaque avant de baisser de pied. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils arrivent à trouver cet équilibre attaque-défense, ça pourrait être l'épouvantail de la NFC.
Lucas, rassuré aussi par cette défense ou surpris par cette défense peut-être?
Surpris peut-être un peu plus, ouais, peut-être un peu plus. Alors c'est vrai, Raph l'a dit, il joue contre seulement face aux Colts. C'est peut-être qu'il y aura des équipes un petit peu plus compliquées, notamment parler des Rams dans la division. Peut-être que l'attaque des Rams sera plus compliquée, mais surpris parce que voilà, elle laisse la chance à cette attaque qui est la force de cette équipe et elle fait même un petit peu plus que ça. Et après, c'est vrai que cette attaque, elle est quand Wilson joue comme ça, elle est incroyable. Il met 4 touchdowns, il est sur les bases de MVP. Alors, c'est vrai que l'année dernière, il fait 5, 6, 7 semaines comme ça, et puis après, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a eu d'autres saisons où il partait un peu plus doucement, il finissait un peu plus fort. Est-ce qu'un jour, il va réussir à faire une saison complète à ce niveau-là? Je sais pas, mais en tout cas, quand il joue comme ça, c'est vrai que cette attaque, et puis, il faut pas oublier qu'ils ont un nouveau coordinateur offensif. On pouvait se poser un petit peu des questions. On sait que c'est Wilson, donc on partait du principe que ça allait être très fort, mais c'est pas non plus assuré. C'était pas assuré sur le premier match. C'était très très fort.
Lions 33, 49ers 41, match en deux temps. Les Niners menaient très largement 38-10 avant d'être rejoints en fin de match. On va commencer là-dessus d'ailleurs. Est-ce que c'est un fait important ou est-ce qu'ils sont un peu juste relâchés? On sait que des fois on a des fins de match qui se voilà. Mais bon, il y a eu une accumulation, onside kick recouvert, etc. Significatif ou pas, Raphaël, cette fin de match?
Je pense qu'ils se sont quand même un peu relâchés. T'as cet onside kick qui rebondit sur le casque du mec de San Francisco, ça récupère. Bon, après, c'est toujours un problème de pas être capable en NFL de terminer complètement les matchs. Mais là, tu vois, sur le tout premier de la saison, bon, j'ai envie de les pardonner parce que pendant trois quarts temps, ils dominent quand même assez facilement Détroit sans trop de difficultés, malgré quelques pertes en plus encore de titulaires dans l'effectif des deux côtés du ballon. Donc, bon, je pense que c'était plus une petite erreur de parcours qu'autre chose. Mais après, par contre, au moins, comme Lucas l'avait dit en début de podcast, ça a le mérite de donner du cœur à ces Lions, que c'est une équipe qui se bat et c'est presque déjà ça pour eux.
Ils ont fait de la stat. Ça, au moins, on ne pourra pas leur en vouloir. Ils ont fait de la stat et ils ont montré de la volonté. Donc, les Niners terminent avec un bon Garoppolo, 17 sur 25, 314 yards, un touchdown, un bon jeu au sol, évidemment. C'est une équipe de catch and run. Ça sent l'équipe qui peut aller loin, quand même, Lucas, là. Sur ce début de match, en tout cas, quand ils sont appliqués, ça fait. C'est costaud.
Oui, ouais. C'est très costaud. Moi, bon, je suis un
défenseur. Ah oui, tu les as donnés au Super Bowl.
Voilà, la première mi-temps m'a donné raison, entre guillemets, en tout cas m'a montré que ce que j'imaginais avec une super première mi-temps, comme tu l'as dit, un jeu au sol. Après, il y a des blessures, il y a ce retour en deuxième mi-temps. Je suis assez d'accord avec Raph, c'est peut-être plus du relâchement. Et surtout qu'on a vu d'autres équipes se relâcher et perdre le match. Ils ont fini quand même par le gagner parce qu'ils partaient de loin. Donc, c'est peut-être une piqûre de rappel, un avertissement sans frais. Donc, c'est une belle équipe. Après, il y a toujours ces blessures. Même si bon, Moster se blesse, je ne sais pas si tu l'as dit, mais même si avec Shanahan et cette ligne offensive et ce système, on a l'impression qu'on mettrait peut-être pas n'importe qui. J'exagère, mais voilà, on a vu le rookie faire plus de 100 yards. Le jeu au sol va performer. Mais bon, voilà, il ne faut pas que ça s'accumule parce que c'est toujours le même problème avec les 49ers.
Ça, c'est sûr que les blessures, ça commence déjà. On a vu un petit peu de Trey Lance. On en reparlera éventuellement d'ailleurs dans l'émission de jeudi des quarterbacks rookies. Une passe, un touchdown. Efficacité maximale.
Autant que Garoppolo,
c'est vrai. Ah oui, voilà, on était dans les stats avec micro-échantillon tout à l'heure pour Dalton, ça marche aussi là. Non, mais oui, Trey Lance, ils font ce truc de faire rentrer par action, comme les Bears ont fait un peu avec Justin Fields, ça lui donne un peu le goût du terrain. En défense, Nick Bosa a réussi un sac. Penei Sewell a été très honorable face à Nick Bosa, donc ça fait quand même des points positifs. Pour Détroit, mine de rien, c'est une équipe avec qui on promettait l'enfer. Bon, Jared Goff n'a pas été déshonorant.
Non, ils ont même bien couru globalement. Ils ont été pas si mal que ça à la course, j'ai trouvé. Peut-être l'effet Penei Sewell, comme tu l'as dit, qui sur le côté gauche de la ligne a vraiment fait un match au rookie balancé face à la ligne défensive de 49ers. Il fallait quand même le sortir ce match. Donc ça, c'est assez de bon augure pour l'avenir. Après, voilà, ils ont les axes. Ils ont les axes de progression au moins. On sait quoi.
Bon, il y a quelques éléments. Buccaneers 31, Cowboys 29. Je mets au milieu des matchs du dimanche, le match de jeudi entre les Buccaneers et les Cowboys. Victoire au finish pour Tom Brady et son équipe. Brady a été bien protégé. On va pas faire hyper long. Moi, j'en ai parlé dans le fauteuil notamment. Tout se déroule comme prévu pour l'attaque de Tampa, j'ai envie de dire. Avec le bonus que même les vieux sont hyper forts. Antonio Brown, Gronk, c'est hyper prometteur tout ça.
Ouais. Et puis en plus, il y a un score serré. Il y a Tom Brady qui revient en dernier moment, mais ça n'aurait jamais dû arriver comme ça. Chris Godwin fait un fumble, il loupe une balle qu'il devrait jamais louper sur une troisième tentative dans les deux drives du quatrième quart-temps. Et puis ils arrivent quand même à sortir avec la victoire. Tout se passe très bien. Même la défense, elle prend pas mal de points, mais elle est face à une attaque qui devrait quand même être l'une des meilleures attaques de la ligue. Donc en fait, l'avantage des Buccaneers, c'est qu'elle est tellement complète que même quand cette défense n'est pas aussi forte qu'elle devrait être, l'attaque peut assumer et ça donne une équipe très dangereuse.
Raphaël n'a pas l'air d'accord sur la défense.
Si, non, mais
après c'est le rodage.
C'est le rodage. J'ai fait un peu la moue parce que j'ai trouvé que le backfield défensif et notamment au moment de la sortie de Sean Murphy, Burting, leur cornerback numéro 2, ils ont été un peu plus en difficulté quand c'est Carl Dean qui s'est retrouvé propulsé sur le terrain. Un peu en difficulté. Après, effectivement, c'est aussi face à une des meilleures escouades de receveurs de la ligue en face. Ils vont pas rencontrer toutes les semaines des équipes qui ont trois bons receveurs. Donc, ça tiendra. Et puis, c'est le rodage, etc. Mais peut-être à surveiller. C'était le petit point faible, j'ai trouvé, du côté de Tampa Bay sur ce match, quoi.
Est-ce qu'on donne à Dallas le bon point victoire prometteuse comme Cleveland ou pas? Parce que bon, on va pas revenir sur l'attaque, c'était un peu prévu, ça confirme le retour de Dak Prescott, il y a 58 passes, bon, c'est déséquilibré tout ça. Mais la défense a été plus honorable que prévu.
Ouais, la défense menée par Dan Quinn, donc ancien coordinateur de Seahawks et ancien coach des Falcons, a été quand même plus agressive. Il y a eu pas mal de turnovers provoqués, peut-être un peu aidé aussi par l'adversaire, mais j'ai trouvé que quand même elle faisait bien meilleure figure que celle de l'an dernier. Donc moi, de ce que j'ai vu sur cette première prestation de Dallas, je maintiens qu'ils sont favoris pour la NFC Est. Hein.
Moi, je te rejoins en fait. J'avais mis Washington dans les previews, mais vu ce qui s'est passé cette semaine, on voit que clairement Dallas est au-dessus. Lucas, pareil ou pas?
Oui, pareil. Alors, Raph parlait des turnovers. C'est vrai qu'il y en a deux, trois qui sont un petit peu donnés, notamment les deux interceptions. Mais c'est vrai que la défense et puis à l'image des Buccaneers, elle jouera pas non plus toutes les semaines contre l'attaque de Tampa Bay, qui est par effet miroir aussi l'une des meilleures attaques, notamment aériennes de la ligue. Voilà, ça peut. On demande pas à cette attaque de toute façon d'être celle des Steelers. Donc il leur suffit juste de, encore une fois, donner la chance à cette défense. Oui. On demande pas à cette défense des Cowboys d'être celle des Steelers. Donc il leur suffit de donner la chance à l'attaque. Je me suis un peu emmêlé, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Les Raiders, pardon, 33, Ravens 27, c'était le match du lundi soir, on fait le grand écart du jeudi au lundi. Les Ravens ont mené de 14 points, ils menaient dans le dernier quart, ils menaient de 3 points moins d'une minute de la fin, mais ils ont perdu. Prolongation folle où les Raiders étaient à quelques millimètres de gagner, se sont fait intercepter, Lamar Jackson a perdu le ballon, Derek Carr a trouvé Zay Jones pour le touchdown de la victoire. Est-ce que les Raiders ont des raisons d'y croire cette saison, après cette victoire contre une équipe qui était quand même beaucoup plus cotée qu'eux?
Ils ont du caractère, en tout cas.
Ouais, des raisons d'y croire pour un spot en playoff, pourquoi pas. Hein. Il y a quand même 7 qualifiés dans la conférence, c'est quasiment 50% des équipes. Donc, à partir de là, je vois pas. Enfin, ils ont des raisons d'y croire parce qu'ils ont quand même des armes intéressantes offensivement, à l'image de Darren Waller, leur tight end, qui est quand même d'un très très haut niveau et qui est en train de s'affirmer de plus en plus comme un des top 3 peut-être à son poste. Bon, c'est toujours facile de faire des tops comme ça, mais voilà. Et j'ai trouvé que globalement, la défense avait un peu progressé aussi, celle des Raiders. On a un Max Crosby qui confirme ce qu'on attendait. Enfin, l'an dernier, il était un peu sorti de la boîte de manière un peu surprenante, miraculeuse. Là, il confirme. Bon, c'est quand même pas inintéressant ce que proposent les Raiders. Hein.
Crosby, 9 pressions, 8 quarterback hits, 2 sacks. Donc, en effet, il fait une très, très grosse soirée. Lucas, on l'avait dit un peu, c'est la défense qui sera le baromètre de toute façon. Là, oui. Il force des turnovers, donc ça passe.
Clairement, c'est la défense qui sera le baromètre. Et alors, ils n'ont peut-être pas une escouade complète, mais il y a certains joueurs qui peuvent sortir du lot. Raph l'a dit, Crosby, KJ Wright fait 2-3 bonnes actions, il est très important en tant que vétéran au milieu de cette défense. Et du coup, elle est portée un petit peu, en tout cas élevée par ses individualités. Je trouve que parfois, ça, on peut imaginer que c'est l'inverse dans certaines défenses. Mais là, voilà, ça ne sera pas l'une des meilleures défenses de la Ligue. Mais c'est vrai que comme ça, en provoquant des pertes de balles, en faisant des belles actions qui changent le momentum d'un drive, Ça peut faire quelque chose du côté de Las Vegas. J'étais un peu dubitatif avant le début de la saison. Je ne veux pas dire que je change déjà d'avis, mais le premier match, en tout cas, a été satisfaisant.
Et puis on s'est pas mal moqué, John Gruden, jeu à l'ancienne, tout ça. Bon, 21 courses pour 56 passes. Donc, on était plutôt sur du moderne et qui vole. Hein.
Ils étaient pas mal derrière aussi pendant le match quand même.
Ils étaient pas mal derrière, c'est vrai. Lamar Jackson est resté plus dans la poche quand même, même s'il y a évidemment eu quelques belles envolées. Hein. Il est à 86 yards et il a couru 12 fois, donc il n'est pas non plus resté tout le temps. Mais il y avait une tentative d'être un peu plus quarterback traditionnel de ce que j'ai ressenti. 19 sur 30, 235 yards, un touchdown. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est un travail en cours? Je vois des mous de tous les côtés. Je ne sais pas qui interroger du coup. Je sens des rires gênés. Qui ose y aller sur la marge?
Moi, je me lance parce que je ne suis pas particulièrement gêné. Oh si, un petit peu. Je suis un petit peu gêné quand même. non, mais bah, c'est vrai que je l'ai trouvé lancé un peu plus. En effet, bon, je pense que tout le monde l'a vu. Je pense encore qu'il est limité et c'est peut-être pas dans son bras parce que physiquement, il a l'air au top. Il est capable de lancer à peu près partout. Peut-être dans sa lecture parce que j'ai l'impression que Lamar Jackson, il a deux niveaux de lecture. Il a les passes très courtes, voire latérales, et les passes très longues. Et j'ai du mal à voir des passes intermédiaires. Et du coup, ce qui bloque un peu. Et puis après, bon... Après, il a sa course, il a son physique qui peut le sortir de situation, mais qui peut des fois, quand on lui demande de rester dans sa poche et que d'un coup, il doit sortir parce qu'il y a la pression, bah, il pense moins à la protection du ballon, il fait 2 fumbles. Donc, c'est vrai que c'est mitigé comme sentiment.
Fel.
Non, écoute, moi, je ne vais pas dire que je suis convaincu, parce que voilà, mais moi, je fais partie du camp et qui pense que Lamar Jackson ne fait que progresser et qu'il a encore une marge de progression. Là, il a quand même pas été tout à fait aidé par sa ligne offensive et notamment Villanueva qui a pris bouillon face à Crosby. On l'a dit toute la. Et j'ai trouvé un peu étonnant au final que les Ravens abandonnent aussi rapidement la course. J'ai envie de dire, on a seulement 9 courses pour Tyson Williams, 7 en première mi-temps, 2 en deuxième mi-temps, alors qu'il était sur une moyenne de 7 yards par course. Bon, je sais pas. J'étais un peu étonné par leur plan de jeu. Après, par contre, ce qui est certain, c'est que Lamar Jackson, et là, on peut dire que la défaite est pour lui. C'est que par contre, c'est une double menace, mais il ne peut pas se permettre de perdre ses ballons comme ça quand il sort de la poche. Ça, par contre, c'est qui pour moi, hein, il apporte beaucoup. Cette double menace permet de faire que c'est un quarterback qui apporte beaucoup à son équipe. Mais par contre, s'il sort de la poche, il n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs qu'il peut produire dans le jeu de passe. Il doit être absolument parfait dans le jeu, dans ce côté double menace, et ce qui n'a pas été ce soir. Et donc là, par contre, c'est à surveiller. Faudrait pas que c'est sortie de poche deviennent une fois sur trois des fumbles. Quoi.
Patriots 16, Dolphins 17, un des chocs de la semaine a été défensif. Qui a été le meilleur quarterback? Parce que sur NFL.com, j'ai lu que Mac Jones a été meilleur que Tua Tagovailoa. Vous me direz, oui, mais Tagovailoa, il a gagné. Alors, les stats, Jones a la meilleure évaluation, 29 sur 39, 281 yards, et Tagovailoa a une vilaine interception quand même qui aurait pu coûter cher en fin de match. Est-ce que c'est victoire pour Mac Jones? Sur le duel des quarterbacks, est-ce que vous êtes Team Tua ou Team Mac?
Je ne sais pas si je vais totalement répondre à ta question, mais je donnerai le point de la défaite encourageante à Mac Jones. Ouais. Et donc, entre les deux, je dirais peut-être victoire pour Mac Jones. J'ai été assez agréablement surpris, on le dit plusieurs fois depuis le début de ce podcast, mais Le premier drive a été compliqué. Je les ai vus beaucoup courir et je me suis dit qu'ils allaient repartir un petit peu comme l'année dernière avec très peu de passes parce que le quarterback était limité. Et puis au fur et à mesure du match, le jeu s'est ouvert. En tout cas, Bill Belichick a permis à Mac Jones de lancer un peu plus et il n'a pas été mauvais, voire il a été même plutôt bon de temps en temps. Toute proportion gardée, j'ai l'impression de voir dans le style Brady, mais pas dans le niveau de jeu, pas dans le niveau de jeu, loin de là, mais encore, mais dans le style de ce style de passe, ce style d'attaque. Donc, ouais, je dirais Mac Jones.
Raphaël, convaincu par ses Patriots malgré la défaite ?
C'était pas inintéressant, clairement. Surtout, ce qui était à retenir, c'était offensivement, parce que les Patriots soient capables de sortir une prestation comme ça, défensive, de museler un peu l'adversaire. On savait qu'il y avait des qualités. Il y a un front seven qui avec quelques pas tant de noms que ça de stars, arrive toujours à faire le taf. Et donc voilà, là-dessus, pas de surprise. Donc c'est offensivement, effectivement. Comme vous l'avez dit, Mac Jones a quand même des passages assez intéressants. Hein, vraiment. Tout n'était pas parfait, bien sûr, en tant que rookie, mais je l'ai trouvé assez serein dans la poche, plutôt bon dans la lecture. Il a l'air d'être déjà presque un leader dans son escouade offensive. J'ai trouvé ça assez prometteur, en tout cas, à regarder. Quel est son plafond ? J'en ai absolument aucune idée. Je ne suis pas sûr qu'on le sache dès le premier match. Et puis, j'aime bien quand McDaniel se retrouve un système de jeu avec deux tight ends, Jonnu Smith et Terry. Je trouve ça assez intéressant. Donc, j'ai trouvé ça pas mal pour une première et ils perdent et je pense qu'ils vont se faire bien engueuler par Bill Belichick parce que 4 fumbles pour les Patriots, s'il y a bien une équipe qui normalement fait pas tant de fumbles que ça à la course, c'est bien la sienne.
4 fumbles et 1 sur 4 dans la zone rouge, hein. De toute façon, c'est vraiment les clés de leur défaite. Miami qui a jamais été mené quand même et les 4 fumbles, bon, on peut pas leur retirer aussi qu'ils les provoquent. C'est une bonne défense et c'est une équipe qui sera dans tous les matchs grâce à sa défense aussi, non, Lucas?
Oui, exactement. Voilà, on le sait que c'est cette défense qui va les porter, comme elle l'a fait l'année dernière. Ils sont pas passés très loin des playoffs. Là, mine de rien, ils remportent une victoire assez importante parce que c'est un match, c'est un duel de division. On sait que c'est important. C'est potentiellement, si on imagine que les Bills vont gagner cette division, c'est potentiellement le duel entre les Patriots et Miami, en tout cas dans cette division, pour pourquoi pas aller en playoff. Donc la victoire est importante, notamment grâce à cette défense. Après, c'est vrai qu'ils profitent des errements de New England. Vous le disiez, les Patriots, ils reviennent au jeu qu'on les connaissait depuis quelques années. Et en même temps, ils ont fait un match anti-Belichick total avec beaucoup de turnovers, beaucoup de pénalités. On le sait que le coach déteste ça et donc du coup Miami en profite, mais en même temps c'est aussi eux qui provoquent, donc voilà, ils sont contents de s'en être sortis, je pense, et il faudra quand même voilà s'améliorer un petit peu en attaque dans les semaines à venir, même s'il y a le receveur rookie qui a aussi fait parler de lui, et ça peut être bon signe pour le quarterback.
On enchaîne, messieurs, avec Washington 16, Chargers 20. Il nous reste encore quelques matchs. Justin Herbert qui confirme, c'est un match qu'ils auraient perdu peut-être il y a 3 ans. En tout cas, 31 sur 47, 337 yards, un touchdown, une interception pour Herbert. Toujours le même calme face à une grosse défense. Un très bon match, Raphaël.
Écoute, moi, j'ai envie de te dire qu'il le perdait même l'an dernier, ce match, parce que aussi. La différence avec l'an dernier, pour moi, c'est la ligne offensive. On a vu un bon Corey Linsley au centre, mais surtout, on a vu un excellent Rashan Slater au poste de tackle, le rookie qu'ils ont drafté cette année. Rashan Slater a gagné son combat face à Chase Young pendant toute une partie du match, au point que Chase Young a été replacé de l'autre côté de la ligne. Et quand c'est d'autres joueurs de Washington qui sont venus par rotation, Slater ne s'est pas laissé faire. Donc, je trouve que du coup, le fait de pouvoir donner du temps à Justin Herbert en attaque, ça, avec les cibles qu'il a, notamment Keenan Allen, dont on ne cesse plus de dire à quel point c'est quand même un excellent receveur de cette ligue, ça donne quand même beaucoup, beaucoup de temps à cette attaque. Ça lui permet de... La prestation n'a pas été exceptionnelle, hein, parce que c'est quand même une bonne défense malgré tout qu'on fasse, mais ils font le taf. Et je pense que là, pour le coup, c'est en partie à mettre au mérite de la ligne offensive qui vraiment permet à cette attaque d'élever son niveau face à l'adversité plus importante.
Lucas.
Oui, totalement d'accord. Et notamment pour cette ligne offensive qui tient vraiment bien, qui permet à Herbert de progresser dans ses lectures. La stat des troisièmes tentatives est assez parlante, je trouve. Je crois qu'ils font 14 sur 19, quelque chose comme ça. Et pour moi, les troisièmes tentatives, c'est vraiment c'est là que ça se joue, notamment pour que la ligne offensive tienne, parce que souvent, les troisièmes tentatives, c'est souvent des passes. C'est souvent, tout le monde sait que c'est des passes. Et du coup, c'est un vrai duel. Et en plus, face à un front seven de Washington, qui est parmi l'un des meilleurs de la ligue, de tenir comme ça, c'est de très bon augure.
Pour Washington, la Fitzmagic s'en est déjà allée. Hein, la hanche, boum, à l'hospice. Pour Ryan Fitzpatrick, alors il reviendra probablement pendant la saison, mais pour l'instant, ça fait la hanche et ça fera au moins 3 matchs. Place à Tyler Heinicke, seulement 259 yards en attaque pour Washington. Est-ce que c'est le début d'un long chemin de croix, ou alors est-ce qu'on peut toujours compter sur leur défense pour les garder dedans, justement?
Retour à la case départ, en fait. Retour à la case départ.
Toujours le problème du quarterback.
Voilà, toujours le même problème du quarterback. Ils vont commencer comme ils avaient fini l'année dernière, où on se disait qu'ils avaient pas mal de choses autour, sauf le quarterback. Ils sont allés chercher un quarterback vétéran. Je dis pas que c'est parce qu'il a cet âge-là qu'il se blesse comme ça, mais c'est peut-être pas anodin non plus.
Bah, la hanche, c'est pas anodin, hein, à cet âge-là.
Voilà, j'ai pas osé, je t'ai laissé la faire. Mais bon, voilà, c'est rageant peut-être pour eux. On parle de Cam Newton. Avec Ron Rivera, je ne sais pas si ça.
Apparemment, il a dit qu'il ne cherchait pas. Hein. Bon, après, ils disent toujours qu'ils ne cherchent pas.
Mais... Voilà. Bon, mais en tout cas, la défense va les laisser dans certains matchs, mais voilà, leur plafond sera celui qui était l'année dernière, je pense.
Raphaël, tu signerais Cam Newton? Je ne sais même pas si ça change grand-chose.
Je suis pas certain, vu ce qu'a montré ces derniers temps Cam Newton, et avec un Taylor Heinicke pas si mauvais que ça sur ce match, hein, un peu limité, mais à la limite, pourquoi pas continuer à voir ce que tu as avec lui. Mais comme l'a dit Lucas, ils reviennent au même point que l'an dernier. J'étais déjà très sceptique sur leur attaque. Là, je...
Bon, j'allais dire, imaginez seulement si Dwayne Haskins avait été un franchise quarterback. C'est une équipe complète, voilà. Mais ratée. Panthers 19, Jets 14. Tiens, en parlant de franchise quarterback, la revanche de Sam Darnold, ça fait peur dit comme ça, parce que en fait, c'est pas vraiment une victoire super impressionnante. Anderson et Sam Darnold ont marqué pour mettre le match hors de portée, mais c'était pas non plus flamboyant. Il y a des signes que c'est prometteur avec la première mi-temps, ou c'est galère avec cette deuxième mi-temps à 4 punts, parce que Carolina, c'était un peu un match en deux temps aussi. Je sais que Raphaël est sous le charme du génie de Matt Rhule depuis 2 ans. Donc, est-ce que tu as vu des choses? Il y a quand même 6 sacs et 10 quarterback hits pour la défense, qui elle, pour le coup, a bien fonctionné. Après, est-ce que l'attaque peut suivre?
Ouais, bah, c'est un peu, ça va être toute la question. Et c'est déjà aussi ce qu'on avait un peu soulevé dans les pastilles, les previews d'avant-saison. On avait vu, hein, que ça allait être une défense intéressante avec des joueurs en deuxième année, un front seven avec pas mal de solutions. Donc, qui fasse une prestation comme ça face à une ligne offensive des Jets qui était déjà pressentie pour être pas bonne. Bon, je suis pas tellement surpris. Ils affrontent un rookie, voilà. Mais ouais, offensivement, moi, je m'attends pas à grand chose. Hein. Je vois pas. Et c'est comme ça, la vie est dure. Hein. Je crois que Winston peut se relever, mais pas Darnold. C'est pas très objectif, tu vois. Mais je pense que Darnold n'amènera pas grand-chose de plus à cette équipe que ce que Bridgewater a amené l'an dernier. Donc, c'est-à-dire moyen, en fait.
C'est pas objectif, mais c'est punchy et j'aime ça. Ça fait une très bonne relance. Lucas, est-ce que Sam Darnold peut se relever ou pas?
Est-ce qu'il peut se relever? Non, je suis assez d'accord avec Raph. Je pense que ça sera le niveau du quarterback sera au moins, enfin, on sera au plafond de l'année dernière. Maintenant, McCaffrey est revenu, donc peut-être que l'attaque sera un peu meilleure. Mais le quarterback, je suis pas sûr que ça soit Darnold qui les sorte de situations compliquées. Après, on était quand même sur le pire match de la semaine. Je sais pas si on peut s'accorder pour dire ça, mais c'était très compliqué quand même en termes de spectateurs.
C'est assez possible. Les Jets vont galérer aussi. Hein. Zach Wilson a trouvé Corey Davis pour 2 touchdowns. C'est la bonne nouvelle. Ils ont perdu Mekhi Becton avec une entorse du genou. C'est la moins bonne. Pareil, Zach Wilson, ça va quand même être les montagnes russes probablement pendant toute l'année, vu comme il est mal entouré, quoi.
Oh, et puis il va. Tu parlais de galère. Je pense que il est dans une belle galère. Je sais pas s'il a parlé un peu avec Sam Darnold, mais voilà, il est. Il n'y a pas vraiment de cible autour de lui. On en parlait. J'étais pas forcément convaincu des cibles et du recrutement aérien. La ligne offensive est un gruyère ou pas loin. Et puis la défense que je pensais un petit peu meilleure et subit des blessures. Ouais, ça va être très compliqué pour les Jets.
Bengals 27, Vikings 24. Est-ce que je suis un peu, je vais pas je suis très content de t'avoir, Lucas, mais j'avais préparé des questions pour Grégory parce qu'il est un peu patraque, on vous l'a pas dit, on lui fait une bise. Parce que là, tu vois, Zach Taylor a gagné, donc je voulais tomber sur Grégory. Moi, je voulais, voilà, son équipe a gagné contre les Vikings qui sont censés être plus forts. Alors oui, bon, ils ont mené de 14 points avant de se faire rejoindre à la dernière seconde, puis ils ont failli perdre la prolongation et tout ça. Mais quand même, Zach Taylor a gagné un match. Donc, Raphaël, est-ce que ça vous la coupe ? Est-ce que ça y est, vous vous inclinez devant le génie de Zach Taylor ?
Non, non, on va quand même attendre avant de s'incliner devant le génie de Zach Taylor. Hein. Bon, après, oui, par contre, c'est un bon match. Joe Burrow revient très, très bien de sa blessure. Il a semblé assez serein dans la poche, des belles passes. Maintenant, est-ce que c'est Zach Taylor ou une très décevante défense des Vikings ? J'aurais tendance à te dire que c'est la deuxième. Mais bon.
Il y a des playmakers quand même. Hein. Jamar Chase qui capte 5 ballons, Joe Mixon qui gagne 127 yards au sol. Ils prennent 5 sacs quand même. Ça, c'était prévu aussi. Les Bengals ont été un peu ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il y a des playmakers. Est-ce que la défense des Vikings a donc été si décevante que ça, Lucas ?
Ouais. Je ne suis pas Greg, mais je vais peut-être essayer d'imaginer ce qu'il pourrait dire. Plus sérieusement, c'est vrai que, alors certes, c'est les Bengals qui ont gagné, mais les Vikings ont vraiment perdu ce match. Ils marquent beaucoup de yards. En tout cas, ils gagnent beaucoup de yards en attaque. Ils n'arrivent pas à le gagner. J'étais pas convaincu du tout par leur recrutement au niveau du backfield défensif. Et là, sur ce premier match, c'est compliqué. Breland avec un match très compliqué. Alors oui, la ligne a mis un peu de pression et a réussi à atteindre. Mais s'ils continuent comme ça, en tout cas, s'ils n'améliorent pas leur défense, ça va être compliqué. En plus, ils prennent énormément de pénalités. Je crois qu'ils sont 12 pénalités avec plus de 100 yards. C'est souvent le signe, je ne veux pas faire de raccourci, mais c'est souvent le signe d'une équipe qui est en difficulté au niveau du coaching. Voilà, c'est compliqué pour la défense. Et attention à Mike Zimmer, attention.
Et Kirk Cousins qui a justifié son surnom de Captain Checkdown puisqu'il est à 7,2 yards par passe. En comparaison, Bureau, c'est 9,7 hein, quand même. Falcons 6, Eagles 32, c'était un match dont on ne savait pas vraiment quoi attendre. Alors là encore, moi j'avais prévu, là normalement je marque rien. Moi quand il y a un match des Falcons, je mets Greg sur la fiche, je lance et puis c'est fini. Donc bon, qu'est-ce qui se passe on commence par qu'est-ce qui se passe avec Atlanta ou qu'est-ce qui se passe avec Jalen Hurts ? Je ne sais pas lequel des deux était le plus surprenant en fait. Parce que Atlanta, c'est quand même liquifié, mais violent quand même.
Ouais, hein. c'est quand même le. Alors, on avait classé Atlanta assez bas dans notre power ranking d'avant en saison. On n'y croyait pas beaucoup pour quoi que ce soit, mais on s'était quand même dit la défense va être très mauvaise, mais l'attaque va pouvoir surprendre, etc. Là, le problème, c'est que Atlanta, rien n'a marché. Donc. Si l'attaque se relève pas très vite, la saison va être affreusement longue parce que là, sortir une prestation pareille face à l'escouade défensive des Eagles assez jeune, hein, globalement, avec beaucoup de jeunes qu'on puisse illustrer, ça pauvre Grégory, hein, ça va pas être très drôle.
Ah bah, il va vivre une longue saison. Alors, j'ai taquiné en disant avec le premier choix de la draft dans les leçons de la semaine, il y a des effectifs qui sont quand même plus faiblards. J'ose espérer que leur attaque va réussir quelques matchs, mais Lucas, on est d'accord, en effet, cette saison, elle s'annonce quand même assez terrible. Matt Ryan, il aurait peut-être dû. C'était peut-être le moment de partir, je crois.
Je soupçonne Greg d'avoir annoncé qu'il était malade pour pas subir ça, quand même.
Peut-être aussi.
Mais sérieusement, c'est vrai que c'est très compliqué. La défense, on le savait, mais l'attaque, cette attaque. Numéro 4, Kyle Pitts, alors c'est son premier match, bien entendu, mais il avait été sélectionné aussi pour faire du bien dans la red zone. Ils y sont allés deux fois, je crois qu'ils n'ont pas inscrit de touchdown. C'est très compliqué si l'attaque en plus est compliquée. Après, ils étaient en face d'une défense des Eagles qui est un peu meilleure que ce qu'on pense, je pense, qui est un peu sous-cotée. Ils ont une ligne défensive qui est capable de mettre de la pression. Ils ont fait du recrutement dans le backfield défensif qui semble pouvoir payer. Je pense que Philadelphia va avoir une défense correcte plus.
Bon, alors, la surprise, c'était l'attaque quand même. 27 sur 35, 264 yards, 3 touchdowns pour Jalen Hurts, 62 yards en prime au sol. La question, c'est surtout ça. C'est est-ce que ça peut durer ? Alors, bon, on sait qu'il n'y avait pas une grande, grande défense en face. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont bénéficié à plein de ça ? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui couvre du côté de Philadelphie avec Devonta Smith, leur rookie, pour le coup, lui, il a justifié sa draft. 6 réceptions, 71 yards, un touchdown. On a eu une belle équipe de Philadelphie sur ce premier match, Raphaël.
Ouais, moi j'ai envie de te dire un peu les deux. Ils ont l'avantage de commencer par une défense un peu faible pour prendre un peu de confiance et voilà. Mais on a quand même vu de bien belles choses de la part de Hurts. Bon, moi, qui correspond peut-être plus finalement aux qualités de ce groupe et de sa ligne offensive que Carson Wentz, et qui ça match peut-être mieux. Et puis, comme tu l'as dit, les receveurs ont l'air d'être ce qui a été le problème hein, quand même de Philadelphie ces deux, trois dernières saisons, les squads de receveurs. Là, Devonta Smith apporte tout de suite de la qualité. Ça permet à Reagor d'être numéro 2 et de peut-être avoir un peu plus de liberté que quand il était un peu par défaut numéro 1 l'an dernier. Tout le monde en bénéficie, son quarterback, ses collègues receveurs. La ligne offensive a retrouvé du poil de la bête. Il y a moins de blessés que l'an dernier, donc ça repart dans le bon sens. Ouais, assez surprenant de la part de Philadelphie. Moi, j'ai envie d'y croire pour la suite.
Lucas, est-ce que tu as envie d'y croire ?
Oui, ouais, j'ai envie d'y croire. Alors après, tout dépend ce que ça veut dire y croire. Mais en effet, cette ligne offensive est peut-être pas si mauvaise que ça. Bon, alors il y a eu pas mal de retours par rapport à l'année dernière. Et en effet, le quarterback est un profil différent de celui qu'il y avait, ou en tout cas de Wentz qui était derrière cette ligne depuis un moment. Mais il n'encaisse qu'un sac. Et je reviens un peu à ce que je disais sur Wentz. Bon, c'est voilà. Mais oui, pourquoi pas cette attaque à partir du moment où cette défense peut faire de bonnes choses, la défense peut la laisser dans certains matchs, l'attaque peut faire de bonnes choses aussi. Ce sera pas une année exceptionnelle, mais ça sera peut-être moins mauvais que ce qu'on pensait.
En tout cas, on va éviter de fixer hein, parce que le calendrier à venir c'est assez coupe-gorge. 49ers, Cowboys, Chiefs. Donc là, bon, voilà. Bon, s'ils arrivent à s'en sortir sur un de ceux-là, s'ils en prennent un sur les trois déjà et qu'ils sont à 2-2, c'est bien. Hein.
Clairement.
Les Giants 13, Broncos 27. Raphaël, je sais que tu croyais pas trop en Denver. Bon, alors ça joue pas du fort en face. Bon,
excuse-moi.
Je mets un bémol tout de suite. Mais il y a un quarterback propre, 264 yards de touchdown. Il y a deux sacs et sept pressions pour Von Miller qui revient bien. Il y a des bons matchs de leurs receveurs. Il y a même 165 yards au sol. Bon, ou alors tu t'en fous complètement parce que c'était les Giants.
Malheureusement, j'ai envie de te dire que ça va presque être la solution numéro 2 parce que Bridgewater, on l'a vu l'an dernier à Carolina, hein, c'était globalement propre, mais et là, ça explose un peu face à New York qui donne plein de ballons, etc. Mais je pense que Denver, sur ce match, enfin, bon, je vois pas Bridgewater faire beaucoup mieux que ce qu'il faisait à Carolina, donc ça va permettre à Denver d'être une équipe solide, accrocheuse. Mais après, est-ce que c'est l'objectif juste d'être ça cette saison? J'en sais rien. Peut-être que c'est l'objectif de Denver déjà d'être ça. Et dans ce cas-là, ça va réussir. Mais
après, ce serait plus sympa déjà d'être solide et accrocheur que de vivre avec les fulgurances de Drew Lock en montagne russe. Hein.
Ah oui, non, mais ça, les fulgurances, en plus, t'es déjà gentil de les mettre au pluriel. Hein, parce
une
que...
de temps en temps.
ça mérite même pas.
Alors, on avait une défense des Giants qui était censée un peu les aider comme l'an dernier. Là, ils prennent 420 yards. Donc, Lucas, s'il n'y a même pas la défense pour les aider, clairement, ce sera bouillon à chaque fois parce que Daniel Jones, c'est toujours pas ça.
Ah oui, ça va devenir très compliqué. En plus, je me suis amusé à regarder les highlights de ce match sur la NFL qui met des highlights de 4 à 5 minutes. Il n'y a pas une seule image des Giants en attaque. Ouais. Et quand on voit la défense qui prend beaucoup de yards, on se dit qu'en effet, la saison va être très compliquée. Après, moi, sur la question que tu posais à Raph, je prendrais plutôt la solution 1, c'est-à-dire que l'attaque, certes, Bridgewater, on sait ce que ça vaut du côté des Broncos, mais il a une équipe autour de lui, notamment une défense qui est meilleure, des receveurs qui sont pas mauvais, voire bons, avec des bons tight ends. Certes, Jerry Jeudy s'est blessé et on va voir ce que ça donne, mais voilà, Bridgewater, c'est pas le joueur qui va faire améliorer cette attaque, mais qui peut être porté par une belle attaque. Et donc, du coup, certes, c'était les Giants en face, mais Denver a surveillé quand même.
Pour finir sur les Giants, en tout cas, Daniel Jones reste Daniel Jones. C'est-à-dire qu'il y a, je parlais de fulgurance pour Drew Lock, allez, il y en a eu quelques plus pour Daniel Jones, mais il y a toujours les ballons perdus. Et
ah,
puis,
mais c'est pas possible.
Ça reste le même. Quoi.
Moi, j'ai pas envie de faire mal aux fans des Giants, mais honnêtement, Daniel Jones, ça peut pas être la solution. Je suis désolé, mais il en est à, si je dis pas de bêtises, 42 ou 43 ballons perdus en 28 matchs en NFL. Enfin, c'est plus d'un ballon perdu par match. Comment tu veux que l'attaque s'en sorte? Alors, oui, il est pas aidé par sa ligne offensive qui reste mauvaise. Oui, il est pas aidé par play calling. Mais tu peux pas, il peut pas perdre deux ballons par match quasiment. C'est juste pas possible en fait. Donc
non, clairement. clairement. On termine avec Texans, Jaguars 37-21 pour les Texans. Est-ce que c'est la démonstration, attention, je rentre dans la polémique, est-ce que c'est la démonstration que sur une journée, une seule, il vaut mieux des vétérans NFL moyens que les meilleurs jeunes joueurs de NCAA qui arrivent? Puisque typiquement, on était quand même dans le cliché Trevor Lawrence, Urban Meyer, super NCAA qui arrive, tout ça. Et en fait, ils se sont fait clé de bras maîtrisée sur le capot de la bagnole, merci, au revoir, par les Texans qui jouaient Mark Ingram, Tyrod Taylor, quoi.
Je vais laisser Raph parce que je crois qu'en plus, il avait annoncé la victoire de Houston. C'est pour toi, c'est ton moment.
Ouais, non, mais je sais pas si j'irai jusque-là, parce que si à Jacksonville, tu mets tous les meilleurs joueurs universitaires, du coup, ça va être un peu meilleur que ce qu'ils ont peut-être à l'heure actuelle. Mais là où je suis pas surpris, c'est qu'effectivement, t'as une équipe de Jacksonville qui a un effectif déjà pauvre, qui envoie son quarterback rookie au casse-pipe parce que 51 passes lancées. Urban Meyer a complètement abandonné le jeu au sol, alors que globalement, en début de partie, quand les Jaguars étaient encore au niveau du scoring des Texans, James Robinson courait bien, il a été à plus de 4 tiers par portée, donc ils ont totalement abandonné le jeu de course, va savoir pourquoi.
Qu'il a abandonné James Robinson le jour de la draft quand il a sélectionné un autre coureur au premier tour.
Oui, je pense aussi, mais bon, en tout cas, après, oui, pour te rejoindre, ça prouve, et c'est aussi pour ça que je pensais que les Texans pouvaient l'emporter cette saison. Déjà, c'est qu'il y a peu d'équipes qui ne remportent jamais de match, donc les Texans, fallait bien qu'ils en prennent un moment.
Oui.
Et les Jaguars me paraissaient être la bonne équipe.
Les Jaguars prennent leur premier et perdent tout l'an dernier, je crois.
Exact.
Ils sont quasiment à une saison blanche du côté de Jacksonville. Mais après, pour revenir sur la question des vétérans, d'ailleurs, ça, je trouve que ça rejoint quand même ce qu'on avait globalement dit en intersaison, qu'on trouvait la free agency des Texans pas si mauvaise que ça, parce que pour une équipe très limitée sans quarterback, ils avaient fait venir des vétérans qui sont là depuis plusieurs années, qui savent jouer en NFL, qui font le taf. Ça va pas être spectaculaire, mais et le taf a été fait. Tyrod Taylor a été bon, Mark Ingram a été bon. Et donc, c'est une équipe qui va être chiante à jouer parce que les mecs sont là. Et surtout, je pense qu'ils vont avoir à cœur de montrer que ce n'est pas les paillassons annoncés toute la saison. Donc, je suis presque content pour eux, en fait, de la performance là qu'ils ont sortie, de calmer la hype rookie et de montrer que la NFL, quand tu es depuis 10 ans en NFL, en fait, ce n'est pas pour rien. Enfin,
Tyrod Taylor, Mark Ingram, Brandon Cooks, Danny Amendola, ça sent bon le 2013-2014.
David Johnson.
On est bien. Petite leçon aux jeunes alors, Lucas. Je vous dis juste quand même, les Texans, 449 yards, aujourd'hui au moment où on se parle, quatrième attaque NFL.
Ouais, avec Tyrod Taylor, parce qu'on parle de Bridgewater depuis tout à l'heure en disant exactement qu'on sait ce qu'il vaut. Tyrod Taylor, pour moi, c'est le Bridgewater d'il y a quelques années. C'est qu'on sait exactement ce qu'il vaut. Et voilà, on sait très bien que dans 3, 4, 5 matchs, 6 matchs, allez, si les Texans sont chanceux, on sait que le niveau va baisser. Et le problème, c'est que toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir Herbert pour mettre derrière. Du coup, mais après, c'est vrai que du côté des Jaguars, notamment les 3 interceptions de Lawrence sont quand même pas jolies. Ça pique. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous vois faire les gros yeux. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi. Donc oui, en effet, on s'est peut-être un peu enflammé sur l'attaque des Jaguars avec cette ligne offensive qui, au final, rend la tâche compliquée. Donc ouais, belle piqûre de rappel, en effet.
Il y a quand même eu quelques belles choses de Trevor Lawrence, qu'on ne soit pas que dans le négatif. C'était son premier match.
Il y a eu des belles choses, notamment sur play action. Il s'est montré très, très efficace à ce niveau-là avec des jolies passes. Il y a des passes réussies sur des joueurs très bien couvert, donc tu sens qu'il maîtrise, il a de la précision, tout ça. Mais après, oui, il y a eu des très, très vilaines erreurs de lecture, donc c'est un rookie, il va apprendre au fil de la saison. Par contre, j'espère qu'il accepte mieux la défaite que son coach.
Alors voilà, juste pour dire un mot, en effet, les rumeurs commencent à circuler qu'Urban Meyer ne serait pas tout à fait dans des bonnes dispositions psychologiques quand il s'agit de perdre. Donc c'est mal tombé qui tombe à Jacksonville, on dit ça comme ça. Et de mémoire, on n'est pas des spécialistes universitaires, mais c'est pas un coach défensif de base, Urban Meyer, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je trouvais ça cocasse que grâce à Urban Meyer, les Texans soient 4e attaque de la NFL. Mais oui, il y a des rumeurs comme quoi il exaspérerait déjà un peu beaucoup les gens du staff qui sont des anciens de NFL, qui comprennent que tu peux pas gagner tout le temps et qu'apparemment lui, il pétait des câbles même quand il perdait en pré-saison. Donc même nous, on sait que ça veut rien dire, le résultat de la saison. Bref, ça va être une saison fun du côté de Jacksonville, pour le meilleur et pour le pire, les tops et les flops. Les tops et les flops, Lucas, allez, c'est ton. C'est pas ton premier débrief, mais c'est ton premier débrief officiel de membre de l'équipe de cette année.
Je commence par
la priorité. Le top.
Alors, le top, ben, j'ai mis la NFC West, parce que si je ne me trompe pas, les quatre équipes ont gagné. Mmh. Et du coup, je suis impatient de voir comment la saison va se dérouler dans cette division. Tous les matchs vont être sympas, et notamment les duels de division. Imaginez-vous quand Seattle va jouer San Francisco ou Los Angeles, ou quand Los Angeles va jouer Arizona. On sait que chaque saison, cette division est incroyable, mais la première semaine m'a donné envie de vraiment la suivre particulièrement.
C'est vrai qu'on a dit beaucoup de bien des quatre, quoi. Il y a superbes équipes dans cette division. Raphaël, ton top?
Ben mon top, moi, c'est quand même la prolongation entre Baltimore et Las Vegas cette nuit, enfin dans la nuit de lundi à mardi, du coup, qui a quand même été, en termes de rebondissement, pour une prolongation assez exceptionnelle avec les Raiders en goal line, puis qui se font intercepter derrière. Enfin bon, c'était assez incroyable. Donc, les prolongations NFL sont pas toujours exceptionnelles. Là, pour le coup, on en avait une qui a permis de bien clôturer cette belle première semaine, j'ai trouvé. C'est pas tout le temps qu'on commence bien en première semaine NFL. Là, globalement, on s'est quand même fait plaisir.
C'est vrai. Moi, je vais rajouter en top Chandler Jones, donc qui a 5 sacs, mais mon top, c'est Tyler Lewan. Je sais pas si vous avez vu, je pense que j'ai jamais vu ça de la part d'un joueur NFL qui remercie Chandler Jones de l'avoir humilié. En disant, bah écoute, c'est bien, ça me force à bosser plus dur. Donc, bah, tant mieux, hein, c'est une réaction honorable, mais bon, il s'est quand même fait balader toute la soirée. Et derrière, il a mis un beau message sur Twitter, Tyler Lewan, où il disait, merci Chandler Jones, parce que tu m'as mis un sacré coup de pied au cul, et maintenant je vais bosser, quoi. Donc, c'est rare les joueurs NFL qui font ça, et je trouvais ça assez, assez marrant. Lucas, ton flop?
Le flop, c'est les numéros pour moi.
Amen. Merci.
Ah, parce que non, mais c'est. Alors déjà, je vais parler en tant que spectateur. C'est très compliqué. C'est très compliqué à suivre, surtout pour moi et certainement beaucoup d'entre vous qui suivent la NFL depuis un moment et qui sont habitués à des numéros. Je suis pas particulièrement un suiveur de la NCAA. Du coup, je suis pas habitué à ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Et je vais rajouter en plus que notamment du côté des Panthers, il y a eu un changement de numéro, en tout cas l'annonce d'un changement de numéro une heure seulement avant le début du coup d'envoi. Et je trouve que quand on en arrive là, ça devient sportivement compliqué. On sait que les joueurs ne laissent rien au hasard. Et c'était Shaq Thompson, je crois, le défenseur. Oui. On sait qu'en face, les attaquants pensent à beaucoup de choses. Et les numéros sont importants, Tom Brady l'a dit. Changer à une heure du coup d'envoi, je trouve que ça devient sportivement plus forcément très fair play. Légalement, c'est autorisé. Mais je trouvais ça compliqué.
Pour le coup, j'étais super surpris de ça. Je pensais vraiment qu'il y avait des règles, je sais pas, au moment des cuts d'effectifs ou quelque chose comme ça, que tu devais finaliser des numéros. Enfin, il y a des ligues de foot où tu n'as plus le droit de changer après telle date ou quoi.
En tout cas, d'ailleurs, il me semble qu'en NBA, si on change, les joueurs ont l'obligation de racheter le stock de maillots qui est déjà imprimé.
C'est le cas ici aussi. Hein. C'est le cas en NFL.
Ah bah il va le faire. Il a changé une heure avant, en tout cas, Shaq Thompson. Mais enfin, c'est l'annonce, en tout cas, comme tu disais, qui est compliquée.
Parce que Dalvin Cook a annoncé qu'il voulait pas payer le stock, lui il voulait changer aussi. Il faut prévenir un an en avance si tu veux pas payer le stock. Il faut que ça ait le temps de se vendre. Mais je suis d'accord avec toi. Moi je pense que j'aurais oublié dans 3 semaines, hein, mais c'est vrai que sur le coup la première semaine ça m'embête. Et je suis d'accord. Des fois tu sais plus qui est corner, qui est machin, ça se balade un peu, c'est un peu énervant. Je vais pas aller vers Raphaël parce que je sais que lui il s'en fout totalement, non? Parce que Raphaël n'aime pas les détails de maillot, de trucs comme ça. Il est pas dans la fashion.
Alors globalement, c'est vrai que je m'en fous globalement, hein, mais je peux comprendre que là sur le premier match c'était un peu perturbant. Même moi, il y a un moment, je me suis dit attends, mais comment ça se fait que là il y a un numéro. Enfin, j'ai été perturbé aussi par le numéro. Je pense qu'on va tous rapidement s'y habituer. Et puis voilà, c'est du coup ça m'a plus gêné, ouais, sur le côté un peu visuel que pour le fait, on va dire historique, qu'un running back doit avoir de temps à temps. Ça, j'avoue que.
Ah, je suis rassuré, je pensais vraiment que Raphaël, on aurait 0% à faire. Et là, je sens quand même qu'il y a eu un petit peu de gêne par moment.
Ouais, donc, ouais, ça m'a un peu perturbé quand même.
Alors, par contre, vous n'entendrez jamais Raphaël parler de style de maillot, je crois, on est d'accord. Ça.
Non, effectivement, c'est pas.
Ton flop, Raphaël, d'ailleurs.
Eh ben, mon flop, moi, sincèrement, c'est bateau, mais je voyais pas comment mettre autre chose que Green Bay, parce que cette prestation-là, assez ridicule pour un finaliste de conférence sortant. Après, en plus, on va en remettre une petite couche, mais après toutes les brouffes de l'intersaison.
Bah oui.
Bon, bah, disons que si t'annonces une last dance, pour moi, tu fais une saison sans défaite, quoi. Tu vas jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et tu tombes pas d'entrée de jeu comme ça. Donc,
ouais, à minima, disons que ton premier match, c'est pas la défaite la plus humiliante, quoi.
Voilà.
Tu commences pas par ça, quoi.
C'est ça. Bon,
c'est un peu. Moi, en flop, j'ai mis Washington parce que, petite hype partie trop vite. Je pense que. On a battu un record. Hein. Les gens m'ont forcé pendant le fauteuil. C'est-à-dire que j'osais pas prononcer le mot. Je disais, j'aime bien cette équipe. Je pense que celle-ci peut faire des choses. Pendant toutes les previews, j'ai marché sur des œufs pour jamais prononcer le mot hype quasiment. Et donc là, bon, j'ai dit, allez, s'il faut que je vous en donne deux, je donne Washington et les Patriots. Waouh, la vache, la hanche de. Limite, j'ai entendu le bruit de la hanche de Fitzpatrick claquer dans la foulée de la fin de ma phrase, quoi. Donc voilà, bon, bah, désolé, j'aimais bien. C'est fini. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que se termine le numéro 431 du podcast John Actu. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce débrief. On remercie tous ceux qui nous écoutent, évidemment, et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Pour la reprise, Germain, Bertrand, Benoît, Lille Molikou, Coucoulem, Fricazoïde et Laurent. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez sur Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, les réseaux sociaux @Raphaël_TDA pour Raphaël. At Elvola ou Lucas Vola.
J'ai tweeté une fois, monsieur, cette semaine. J'ai mis 4 heures, j'étais en sueur et tout ça. Je vais arrêter, je pense.
Ça y est, donc c'est Elvola ou Lucas Vola, je sais jamais.
Elvola,
voilà. V-O-L-A. Et à Talin Matéi pour moi-même. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Lucas.
Merci.
Lucas, on se retrouve jeudi pour la preview.
Ouais, c'est ça. Vous m'avez fait entrer, je pars plus maintenant.
Exactement. Tu seras avec moi pour la preview. On a un peu teasé. Il y aura un petit débat. On va parler rookie. Et puis, on se retrouvera, donc évidemment, après pour le fauteuil et toutes les choses habituelles. Merci de nous suivre. On est très content de vous retrouver pour une nouvelle saison générique. Et on vous dit à très bientôt. Merci à Kickbind pour le générique qui est toujours là d'ailleurs. Très bonne semaine à tous. À jeudi. Ciao, ciao.
Les jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Croquage Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.